Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'équipe d'Estelle sans Estelle, mais avec beaucoup, beaucoup de bonheur et d'énergie. On va passer un petit peu moins longtemps que d'habitude, 1h45 ensemble, c'est à cause du vélo, ils étaient un petit peu à la bourre, nos cyclistes. On va revenir comme tous les soirs sur toute l'actualité foot du jour. Il y a de la Coupe d'Europe, il y a de la Ligue 1, il y a de la Liga, il y a du PSG, il y a du Marseille, il y en a pour tous les goûts. Qui nous accompagne aujourd'hui, sans très grande forme, parce que c'est vendredi et après ils sont en week-end. Nabil Djellit.
Bonjour, douce France, cher pays de bon enfance.
Ça va beaucoup mieux les cheveux hein, que tout à l'heure qu'en story. Je préfère, vraiment. Bienvenue. Dominique Grimaud et ses pralines, donc on est prêts.
Oui, elles sont en bas.
Bon, vous ne les ouvrez pas pendant les débats, juste.
Ça fait non, pendant la pub. Salut France,
c'est
ça
mieux.
Va.
Thibaut Médrian, tout va bien?
Tout va bien, ça sent la praline, j'adore.
Ah, attention, parce que ça peut prêter à confusion. Alors là, je crois qu'on est sur un petit pull. Ah. Candice Roland, joli. C'est mon animal préféré. Merci. Bonjour, mon petit pigeon.
Candice ou le pigeon?
Ah, bah, vous. Tout va bien, d'accord?
Ça va très bien.
Bon, on a plein de petites infos. Karim Nedjari, très élégant, très chic. Il a déjà le stylo à la main, il est prêt à sortir des analyses. Ça va Karim?
Ça va. Bonjour France.
Bonjour. C'était sobre mais efficace. Mais quand je rassemble pas vous cette chemise, mais on valide quand même. Ça va?
Ouais, j'en ai une, hein, c'est ça.
Bon, je vais arrêter de faire des blagues sur les fringues. On n'a dit pas les fringues. Est-ce que vous voulez qu'on parle de foot?
Non.
Oh. Ah bah alors bonsoir. Allez, le sommaire, voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Un classico bouillant demain et deux Français en danger. Côté Real, c'est Zizou sur le banc qui joue sa place. Côté Barça, c'est Griezmann sur le banc ou sur le terrain d'ailleurs. Peut-être la dernière chance pour ces deux-là de s'en sortir. Paris battu cette semaine en Ligue des Champions revient à la Ligue 1 ce week-end face à Dijon. Oui, mais avec quel patron? Que ce soit dans le jeu ou dans le vestiaire, ce pari-là manque-t-il d'un véritable leader? On reparlera de l'OM battu cette semaine en Ligue des Champions. On se penchera notamment sur le cas de l'entraîneur, hein, Villas-Boas, et sur ses choix, sur sa responsabilité. Vous me direz si vous commencez à douter du coach marseillais. Et puis enfin, l'équipe de France féminine joue ce soir dans un contexte interne bien particulier. En cause, la sélectionneur Corinne Diacre, critiquée par ses joueuses, mais soutenue par son président. Un beau bazar. Sans oublier nos rubriques habituelles, évidemment, dans l'émission, hein, le zapping, la petite lucarne, le foutoir, les jeux.
On parlera de Lille.
On parlera de Lille.
Ça fait une seule victoire. Ben oui.
Et de l'anniversaire de Pelé. J'ai bien compris que vous aviez un programme en particulier. On va arrêter de sourire. Une seconde, toute petite seconde. L'heure est très grave, les enfants. Zizou est en danger. Zinedine Zidane fait la une de toute la presse aujourd'hui, Candice.
Et notamment la une de l'équipe aujourd'hui. Avis de tempête sur la tête donc de l'entraîneur du Real Madrid. Après la défaite à domicile en Ligue des Champions contre le Shakhtar, deuxième défaite de rang pour les Madrilènes. Zidane qui fait aussi la une en Espagne, à l'examen ou sous surveillance pour AS, avec un Zizou dubitatif et alerte blanche pour El Mundo Deportivo. Cette fois-ci, il partage la une d'ailleurs avec son homologue barcelonais, Ronald Koeman. Donc tout ceci à la veille du classico.
Et aujourd'hui, Zinedine Zidane était en conférence de presse et il est bien conscient du danger. Écoutez-le.
Est-ce que mon avenir est en jeu? C'est ce qui se dit en tout cas, je ne vais pas le nier. L'année dernière, on disait la même chose. Et lors de ma première saison aussi, moi ce que je dois faire, c'est continuer à travailler, me donner à 100% comme toujours.
Alors voilà, vous connaissez le contexte. Hein, entre le classico de demain, le prochain match de Ligue des Champions mardi, il n'a plus droit à l'erreur. Zizou, voici la question. Poser un ultimatum à Zidane, est-ce que c'est lui manquer de respect? C'est un scandale, carrément, pour Nabil. Même pas peur, nous dit Dominique Grimaud. Impossible que ce soit vrai. Attention, Thibaut, ça va finir par l'être. Inadmissible. C'est bien, il n'y a personne qui dit pareil. Oui, il est victime du Covid-19.
Je vais expliquer.
D'accord, oui, ça mérite une explication. Oui, tout court, je préfère, pour Vicage Dourasso. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, il est victime du Covid-19? En fait, on ne blague pas avec ça.
Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est que malheureusement, le Covid-19 a changé toute l'économie du foot.
Donc, il est victime dans ce sens-là.
Le Real, c'est la première fois de son histoire qu'il n'a recruté aucun joueur cette année avec Valence en Espagne. Donc il se retrouve avec un effectif vieillissant. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, en fait, il faut se voir ce que le Real Madrid joue quand même dans son stade B, son petit stade de 15 000 places. Ça me fait penser souvent à Monaco et de voir que les stars avaient du mal à se motiver. Et je pense que c'est très compliqué pour ces stars-là qui ont l'habitude, qui ont besoin d'électricité, n'ont pas cette électricité. Et je pense que dans les analyses qu'on doit faire des grands matchs aujourd'hui, des grands clubs, quand on voit le Bayern, Manchester City, cet aspect du Covid qui a changé la manière de voir le football et l'atmosphère du football n'est pas assez pris en compte.
On rappelle que le stade principal, Bernabeu, est en travaux. C'est un scandale pour vous aussi, Nabil?
Oui, j'entends les arguments qui sont recevables sur l'écosystème économique avec le Covid, mais je trouve que c'est pas recevable, comme pour d'autres d'ailleurs. Pourquoi j'ai dit que c'était un scandale? Parce qu'en fait, en 5 ans, il a tout gagné. Il a gagné 3 Ligues des Champions consécutives, personne ne l'a fait. On lui a demandé de revenir quand ça allait mal. Il est revenu quand ça allait mal. Il est champion d'Espagne, je le rappelle. Cette saison, à cause du Covid notamment, on lui a demandé de ne pas recruter pour tout mobiliser la saison prochaine et pour faire venir Mbappé, Haaland, j'en sais rien, enfin, des cracks, certainement. Et là, en gros, il vient de perdre contre la Belle de Cadix. Il vient de perdre contre le Shakhtar Donetsk. Et donc, en fait, trois Ligues des Champions, champion d'Espagne, remobilisé un effectif qui était en perdition quand il est revenu la première fois. Il est devenu champion d'Espagne un an et demi après. Il doit être viré. Non, mais moi, je veux bien que les entraîneurs soient tributaires de leurs résultats. Mais si tu le vires pour ça, mais ça veut dire qu'en fait, tu ne lui donnes aucun crédit. Je veux dire, pour moi, c'est un manque de respect caractérisé. Si à la fin de saison, son vestiaire l'a lâché, on sent que c'est plus l'homme du moment. OK, je veux bien l'entendre. Mais là, c'est une séquence compliquée, comme le Barça actuellement, une séquence compliquée, comme le Paris Saint-Germain, une séquence compliquée.
Donc, c'est mais on parle de remplacement d'entraîneur aussi pour ces deux clubs. Hein.
Au Paris Saint-Germain, je peux vous annoncer qu'ils sont très tolérants parce que Emery, après la remontada, il est resté. Zidane, il serait jamais resté au Real. Après Manchester United, version 1, avec les U19, il est resté.
On reste à Zizou.
Voilà.
On reste à Zizou.
Enfin, je veux dire, au PSG, on est beaucoup plus. Finalement, il y a plus de stabilité qu'on en pense.
Bon, en tout cas, deux défaites d'affilée, ça fait tâche à ce niveau-là, quand on s'appelle le Real et Zidane, apparemment. Je vous propose qu'on aille tout de suite voir et ensuite, je vous donnerai la main à tous les autres, bien sûr. Antoine Simonneau, qu'on va voir beaucoup ces temps-ci, notre correspondant du côté du Real, mais il se passe beaucoup de choses. Vous étiez à la conférence. Antoine, quel est votre ressenti? Comment est-ce que vous l'avez trouvé, Zizou? Il était au-dessus de tout ça? Il était fébrile? Il était comment?
Oh non, c'était un Zizou, j'allais dire, serein, positif, motivé aussi par le match qui se présente. Il a reconnu que la situation n'était pas vraiment idéale, mais qu'il fallait passer à autre chose. Et que justement, ce classico, il arrivait peut-être à point nommé pour inverser la tendance, pour remobiliser ses troupes, pour voir aussi si ce Real-là avait du caractère. Puis Zidane, finalement, il est assez habitué à ce genre de situation. Hein. Tous les ans, ça revient. Dès qu'on perd deux matchs au Real, c'est quand même malheureusement la catastrophe et la crise. Et puis, vous savez, Zinedine Zidane, il n'est jamais autant motivé que quand il est dans une situation délicate comme ça, parce qu'il a envie de prouver à tous ses détracteurs qu'ils ont tort. Il a gardé en lui cet esprit de compétiteur. Il raffole de ce genre de défi. Et il y a une chose qu'il a, lui, par exemple, contrairement à Corinne Diacre, c'est que tous ses joueurs sont derrière lui. Et s'il y a un moment où il va falloir le prouver, ce sera demain pour le Classico.
C'est important ce qu'il dit là, Antoine. Vikash, le joueur de ce plateau, ça va tout changer d'avoir tout l'effectif derrière lui qui va se battre à fond pour son coach.
On a rarement son effectif contre soi. Puis, de toute façon, perdre un match ou mal jouer, ça se retourne aussi contre les joueurs. Donc, c'est pas très, très intéressant. Moi, je pense que Zidane aussi est un grand champion. Il a été un grand champion. C'est un mec qui sait gérer ce genre de moments. Moi, je suis persuadé que cet ultimatum n'existe pas. Après, qu'il puisse, après quelques mauvais matchs ou défaites, être en danger, pourquoi pas, mais pas aussitôt dans une saison, alors qu'il vient de faire une saison quand même assez incroyable. Après, avec le confinement, le Covid, il est revenu sur le Barça, il a été champion. Moi, je trouve qu'il n'y a pas... Et d'ailleurs, on le voit dans sa conférence, il n'a pas l'air très paniqué. Nous, la presse, on a tout intérêt à créer un peu de buzz et...
C'est nous les mauvais,
non,
c'est
mais
ça, Vikash.
Voilà, je veux dire, moi j'ai un peu lu le papier, on avait l'impression que la personne était dans le vestiaire, alors qu'aujourd'hui dans le vestiaire, on a l'impression que tout va bien. Quoi.
Donc... Antoine, est-ce que quelqu'un a parlé, Antoine Simonneau, je vous récupère depuis le Madrid, est-ce que quelqu'un a parlé d'ultimatum? Est-ce que le mot ultimatum est sorti dans cette conf?
Non, mais il y a eu trois questions seulement sur son avenir. Pour savoir un petit peu s'il se sentait en danger, s'il risquait gros. De toute façon, Zinedine Zidane, voilà, il y a deux matchs très importants, justement pour inverser ça. Et j'allais dire, à moins d'une humiliation contre le Barça et d'une humiliation contre Gladbach, c'est quand même compliqué de le licencier à ce moment-là. C'est vrai que ça ferait tâche. Mais c'est surtout l'attitude qui va être importante parce que ce qui a choqué, j'allais dire, les supporters comme, j'allais dire, tout l'environnement madrilène, c'est surtout l'attitude des joueurs du Real Madrid. C'est vrai qu'ils étaient assez indignes du club. Quoi.
Question de Karine Djari.
Ouais, j'ai lu le papier très informé ce matin dans l'équipe. Et en fait, on dit que dans l'entourage du président du Real Madrid, on envoie des éléments de langage pour fragiliser Zinedine Zidane. Qui sont ces membres autour? Est-ce que c'est des gens importants?
C'est des gens de la Junta Directiva, donc c'est-à-dire c'est des gens qui sont autour de lui. Et il y a toujours eu au Real des espèces de luttes de pouvoir entre dirigeants. Il y en a qui étaient pro Mourinho, il y en a qui sont contre Zidane. Et voilà. Et on n'aime pas, si vous voulez, qu'il y ait une mauvaise image à un moment donné du Real, que ça joue pas bien. Il y en a qui n'aiment pas le style de Zidane. malgré tout ce qu'il a pu faire et tout ce qu'il a pu remporter. Donc il y a toujours des détracteurs au Real, parce qu'on veut avoir un petit peu plus de pouvoir et être un petit peu plus décisionnaire.
Merci beaucoup Antoine Simoneau. Je pense qu'on n'a pas fini de venir vous faire des petits coucous hein, tout au long des jours à venir s'il y a encore danger en la demeure. Arrêtez de vous énerver Nabil, tout va bien. Je vous redonne la parole dans un instant.
Candice,
oui, mais je voudrais alors voir Candice. Oh là là, souvent parce qu'elle a une stat intéressante.
Oui, pas rien. Temps.
Oui, alors Zinedine Zidane dans les classicos. Ben oui. Il a dirigé 9 matchs hein, du Real Madrid donc sur le banc face au Barça et bien ça a donné 4 victoires, 3 nuls, 2 défaites donc finalement même pas 50% de victoires et finalement aussi peu de spectacles, 14 buts seulement inscrits, 11 buts encaissés. Donc, ce n'est pas forcément son adversaire favori.
Le match, ce sera samedi 16h.
S'il n'y a pas plus de manque de respect à Dominique Grimaud plutôt qu'à Zidane.
À Zizou, vous croyez ? J'ai même pas envie d'y aller. Bon, alors, allez-y, Dominique, c'est votre moment. Profitez-en, c'est la pub dans 10
secondes. C'est elle qui m'a fait ça, France. Non, écoutez, ça me fait sourire. Zidane, ça fait 25 ans qu'il est au top. 25 ans qu'il est habitué à tous les médias du monde. Voilà. Et il est rompu à tous les coups. Il est rompu à toutes les règles du foot. Et Dieu sait qu'il y a des règles qu'on peut discuter. Il est capable, demain, d'aller voir Florentino Pérez et de lui dire droit dans les yeux « Vous voulez plus de moi, je m'en vais ». Il l'a déjà fait une fois. Il peut le refaire une seconde fois. Et puis, quand bien même il quitterait le Real, il aurait immédiatement tous les clubs à ses trousses. À commencer par des clubs, un club français notamment.
Lequel ?
Donc, à ton avis ?
J'hésite.
À ton avis ?
Non, mais on peut quand même critiquer ses choix, je veux dire, le fait de ne pas mettre.
Quel critiquer ses choix ?
Vinicius.
Mes camarades ont tout dit. Il a un palmarès qui est inégalable en Europe. Il a tout gagné. Il leur a offert encore un titre de champion d'Espagne il y a quelques mois. Est-ce que c'est lui ? Est-ce qu'il est le banquier du Real ? Non. Le Real n'a pas pu acheter à l'intersaison. C'est vrai que cette équipe, on le disait hier, est un peu vieillissante, qu'elle se situe effectivement un peu en fin de cycle, mais Zidane n'en est pas responsable. Non, c'est pas lui.
Dominique, tu sais que le foot n'a pas de mémoire. Et évidemment, Zidane, comme un autre, si à un moment ça ne va pas du tout, il se fera licencier.
Oui, il se fera licencier ou il partira de lui-même.
Mais c'est l'image du Real qui serait cordée sur ce coup-là, je vois bien. Qui est une pression des résultats, qu'il n'y a pas de saison de transition dans ce genre de club. Mais j'ai l'impression qu'il est plus grand. Alors, ça va peut-être choquer certains. Peut-être parce qu'on est en France, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que, comme Messi, bah, t'as l'impression qu'il est presque plus grand que le club, quelque part. Enfin, il n'est pas plus grand que le Real, mais vous entendez, il a une telle incarnation que le vieux...
Non moi, tu as raison, non. il incarne ouais. Tout à fait le Real, mais il en est un autre qui incarne aussi le Real, et qui est peut-être un danger direct pour Zinedine Zidane, c'est Raoul. Parce que Raoul, il a une carrière extraordinaire.
Il fait partie de la liste des potentiels. Candice a une petite liste.
C'est le premier de cordée.
Mais il entraîne la Castilla. Exactement. Il entraîne la réserve. Donc on a fait une petite liste et de noms en tout cas qui ressortent en cas de licenciement donc de Zinedine Zidane. Raoul est bien sûr présent. Tout comme Guti d'ailleurs qui avait entraîné les jeunes il y a quelques années. Et puis Massimiliano Allegri aussi qui s'ajoute à la liste avec Mauricio Pochettino.
Là où il est étonnant, Zidane, c'est quand même dans sa progression. C'est-à-dire que dans sa communication, il est parfait maintenant. C'est-à-dire que quand il prend la parole, il dit oui, j'entends tout ce qu'on dit aujourd'hui. Il ne dit pas non, les bruits ne m'intéressent pas. Oui, je sais, je suis sous pression. Mmh. Il assume cette pression avec une rhétorique qu'on ne pouvait pas imaginer au début de sa carrière. Quoi.
Bien sûr.
Et un dernier truc, Francis.
En cas de remontada comme le PSG, Zidane aurait été viré. Le Real n'aurait jamais subi de remontada comme ça. Oui, on connaît ça.
Et
on conclut.
Même, si on met un peu de perspective, il y a peut-être des joueurs que le Real veut attirer la saison prochaine. Et peut-être aussi. Que Zidane, s'il est là ou il n'est pas là, peut-être que dans la réflexion de certains, Mbappé par exemple, ça peut jouer. Je dis ça, je dis rien.
Bon, le Classico Barça-Real, demain, 16h. Thibaut, est-ce qu'on touche à Dieu sur les réseaux sociaux ou...
Mamma mia, le foot marche sur la tête, France. C'est pas moi qui le dis, c'est la barbe TV qui le dit. Le foot marche sur la tête. Très bon compte Twitter. C'est Zidane, il a fait ce qu'il a fait au Real ces dernières années. Il est menacé à cause d'une défaite quand beaucoup de gros d'Europe ont aussi du mal en ce début de saison. C'est incroyable ce qui se passe. Les gens ne sont pas contents. Zizou est un professionnel qui sait qu'au Real, après deux défaites, qu'on lui dise ou pas, un ultimatum se pose.
Oui,
il est au courant, en effet. Zizou, Zidane, c'est le meilleur entraîneur de l'histoire du Real, dit Mathis. Donc oui, c'est un manque de respect de poser un ultimatum. Les gens ne comprennent pas qu'il en soit déjà si tôt dans la saison au bord du gouffre. Alors Candice, vous n'avez pas mis regardez, Laurent Blanc dans la shortlist.
C'est
quand même embêtant parce que normalement Laurent Blanc apparaît sur toutes les shortlists.
Je crois que
n'importe quel transfert. Ça a été noté sur les réseaux sociaux.
Il a le nom pour entraîner le Real.
En plus, il a le nom pour entraîner le Real. Clément nous dit il y a un instant que même pour tout ce qu'il a fait en tant que joueur et coach, chaque entraîneur reste menacé par sa direction quoi qu'il arrive. Mais il faudrait faudrait mieux construire à la Klopp à Liverpool. Voilà, et le laisser sur la durée, en effet, Zinedine Zidane. Voilà, et on a fait un sondage, en effet, le sondage du jour, poser un ultimatum à Zidane, et c'est un manque de respect. Eh bien, c'est un oui à plus de 60%, parce qu'on ne touche pas à Zizou.
À un cheveu de Zizou. Attends, il n'en a plus trop. On est loin, merci beaucoup. On est loin d'en avoir terminé avec toute l'actualité du jour, et notamment de ce classico. On parlera de l'autre Français en danger de ce match, c'est Antoine Griezmann, titulaire ou pas ? On verra ça juste après la pub. À tout de suite. On est de retour dans l'équipe d'Estelle, toujours avec toute la bande. On a encore beaucoup de choses à voir. On a du Griezmann, on a du PSG, on a de l'OM. Mais avant cela, attention. Non, c'est pas Dominique Grimaud qui veut parler. Attention, avant cela, c'est le meilleur du sport, le zapping préparé par Luca Merino. Et il y a eu du bazar en vélo sur le Giro cet après-midi. On y va.
C'est l'image du jour, les coureurs heureux de la décision de l'organisation de cette 19e étape du Giro. Ils ont demandé à raccourcir l'étape qui était censée être la plus longue de ce Giro, 258 km. Finalement, ils n'en parcourront que 124 km.
Il va devenir même sélectionneur des Pays-Bas cet été.
Attention, attention à ce ballon-là, entre les lignes, c'est un très bon ballon avec le duel. Et pour assommer tout de suite le GC Nice.
Ballon conservé par Daniel Jones, et là il a du champ Daniel Jones, et il va vite, il va très vite, Laurent l'avait dit, il va même traverser tout le terrain.
Qu'est-ce qu'il fait ?
Et non, le Turf Monster en a décidé autrement, mais what the...
Trop rapide pour ses pieds, il n'y croyait pas lui-même, ah, je vais y arriver, non, oui, ah.
Je pense que, en tout cas, les acteurs de cette course aujourd'hui, en ne prenant pas le départ alors qu'il n'y a aucune condition qui s'y oppose, détraquent eux-mêmes l'image de leur sport. Ils font du mal à leur sport, ils font du mal à leurs partenaires, et ils font du mal aux gens qui les font vivre. Et ça, c'est ce qui me révolte le plus aujourd'hui. C'est aussi pour ça que je suis en colère. J'ai été coureur. Je sais ce que c'est que d'avoir froid sur un vélo. Je sais ce que c'est que de faire beaucoup de transferts. Je sais ce que c'est que d'avoir à subir les conditions météo en plus de la fatigue de 3 semaines de course. Mais c'est leur métier.
Inger par-dessus pour Alario, c'est bien fait. Le Bayer Leverkusen, beaucoup plus cohérent offensivement. Oh la frappe de Lucas Alario, la mine sous la barre et ça tourne déjà au cauchemar pour le GC Nice.
Et en tout cas, en compilant tout ça, il a été possible de mesurer les gains des écueils. Ouh, Charles Leclerc, le coup de raquette qui l'envoie en tête à queue et les roues arrière dans le bac à gravier.
Et il en ressort.
Il en est ressorti, hein. C'était un replay.
Ouais, en entrée, oui, puis le coup de raquette qui est toujours surprenant aujourd'hui.
Ils sont beaux, hein, les bacs à gravier.
Voilà, je vais être très clair et très simple, aujourd'hui, il n'y a pas de problème de sécurité. Hein.
Exactement.
La fatigue, ça ne peut pas être un argument recevable
fatigue,
selon
attendez,
vous.
Fatigue, c'est quand on s'engage sur un grand tour pour 3 semaines, on sait que la fatigue, on va la rencontrer. Si on ne veut pas accepter la fatigue dans la 3e semaine, on change de métier. Comme je dis parfois à mes coureurs, vous n'êtes pas obligé d'être coureur cycliste.
Ruffalo using his power to get the ball well away from Alan McGregor, and he has a long range putting goal
into a 2-0 lead, game over.
You'll not see a better goal tonight in the Europa League.
Les coureurs ironisaient d'ailleurs hier soir après l'étape en se demandant qui. Voilà, c'est le parti. Départ réel donné par Alocchio, donc à l'instant aux coureurs de ce peloton.
Eh bien, le champion de la République tchèque du contre-la-montre remporte une étape du Giro, mais c'est une étape en ligne, certes une étape raccourcie, mais une étape qu'il aura animée et qu'il aura finalement conquise.
Pour l'instant, cette défaite, mais c'est vrai qu'il y a des regrets. Attention à Moussa Diaby, le centre de Moussa Diaby, second poteau, c'était pas terminé pour le GC Nice. La balade avec le genou, l'espoir, Florian Wirtz.
Oh.
Ça peut faire très mal. Allez, on est de retour. Retour à l'actualité foot du jour avec Antoine Griezmann, le Français du Barça qu'on n'a pas vu beaucoup hein, cette semaine en Ligue des Champions, mais qu'on verra peut-être demain sur le Classico, Candice.
Oui, sur le banc en tout cas en Ligue des Champions cette semaine. Le sera-t-il encore demain donc face au Real Madrid? Eh bien, la réponse est non, selon Sport, pour qui le Français sera bien titulaire au Camp Nou. Koeman pourrait profiter donc de son expérience des grands matchs. Griezmann est pressenti d'ailleurs pour jouer dans le couloir droit, préféré donc à Trincao et Dembélé qui sont envisagés plus comme des solutions de rechange et notamment en deuxième période. Au niveau de la composition, eh bien, on devrait retrouver Coutinho et Fati alignés derrière Messi, et puis Clément Lenglet devrait être le deuxième Français aligné par le Barça.
Alors vous avez la compo sous les yeux, vous avez cette info, donc à vous de l'analyser. Griezou, titulaire demain, voici la question: est-ce que c'est sa dernière chance? Il peut devenir remplaçant?
Oui, enfin, si ça se passe pas bien.
D'accord, oui. J'essaie de vous lire, mais j'ai tout compris.
Mais j'écris comme les médecins.
Un peu. Serait-il mazo? Pourquoi d'être titulaire? Ouais, vous m'expliquerez ça.
Je
comprends rien. Arrêtez les allusions. Faites-moi des réponses franches comme Vicache. Oui, non. Pas un cadeau pour lui. Ouais, ok, là j'ai compris. Non, il y en aura d'autres si besoin. C'est pas faux, Candice. La messe I est dite pour Griezou. Hashtag Nabil.
Je savais pas que je faisais des vannes aussi.
Oh, le jeu de mots. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Petit hommage. Non, merci Vicache. Ça c'est simple. C'est pas sa dernière chance. Alors, faut que vous m'expliquiez tous les deux.
C'est la même chose en fait. La messe I dite. Serait-il mazo? Il n'aura jamais les clés du camion au Barça. Donc il sera toujours exilé à un poste qu'il ne souhaite pas avoir, et dans lequel il ne peut pas vraiment s'exprimer. Mmh. Il veut être au cœur du jeu. Mais au cœur du jeu, tu as Messi, tu as Coutinho et tu as Franck de Jong derrière. Donc de toute manière, Koeman ou un autre ne mettront jamais au cœur du jeu. Et sur les côtés, Dembélé, on a vu son retour, il va 10 fois plus vite que
oui.
Griezmann.
Ah oui, on l'a vu, oui.
Trincao, Ansu Fati, Pedri. Donc il y a une concurrence qui est tellement folle que d'où ma question, serait-il mazo? Son intérêt, et il ne sera. Alors on dit oui, mais l'année prochaine, la saison prochaine, Messi partira. Oui, c'est pas encore
un jour, peut-être.
Pas encore.
Il faut se méfier quand même.
Griezmann, d'autant qu'il est très possible qu'en janvier, Memphis Depay débarque au Barça.
Allez, un plus, bim.
Oui, ben un plus.
T'as raison.
Ben oui.
T'as raison.
Ce qui fait que, à mon sens, alors on sait qu'il est royalement payé, mais l'intérêt de Griezmann sportif, c'est bien évidemment de trouver un autre club et de rejoindre pourquoi pas la Première Ligue, puisqu'il semblerait que la Première Ligue l'attende.
Alors on parle tous les jours de Griezmann en ce moment, il y en a un que ça énerve beaucoup. On parle tous les jours de Griezmann, c'est son coach Koeman en conf de presse aujourd'hui.
Je crois que ce n'est pas bon de discuter de son poste à chaque match. Il y a d'autres joueurs que lui. Certes, c'est un joueur important et on veut que tous les joueurs soient au meilleur niveau possible. Mais le plus important, c'est l'équipe. On va faire jouer les meilleurs joueurs pour obtenir le meilleur résultat possible.
Je vais aller voir Vicage Dorasso sur ce sujet. Si on en parle tous les jours, il n'y a pas que nous qui en parlons. Il y a aussi la presse espagnole, apparemment. C'est qu'il y a un problème.
Oui, puis ça fait un moment qu'on en parle tous les jours, pratiquement. Ouais. Koeman, il est arrivé en disant que c'était son joueur de base, mais en pensant que Messi allait peut-être partir. Mm. Depuis, ça a changé. Il l'a mis sur le banc. Et hier, dans sa déclaration, c'est quand même... Il aurait pu arrêter le débat, il jouera demain, lui redonner confiance, le remettre en position de force. Il laisse planer le doute, donc c'est pas bon signe. Après, je trouve qu'on oublie quand même le joueur que Griezmann a été et peut être.
Et toujours.
Il est quand même très jeune, je veux dire, c'est un problème de confiance, on le voit très bien. A priori, il sera jamais numéro 1, ce sera toujours Messi, il l'a bien compris. Est-ce qu'il est capable d'être le numéro 2, le numéro 3 dans cet effectif, de trouver sa place? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il est capable, demain, en jouant, en étant titulaire, de sortir un très grand match. Il suffit de pas grand-chose. Hein. Il suffit d'une passe, un but, et d'être décisif de manière importante dans ce match-là. Moi, je pense qu'il est capable de le faire. Donc voilà, après, il est dans une situation difficile avec beaucoup de concurrence.
Beaucoup, beaucoup de monde en face. Vous les avez listés, mais il a déjà fait la liste tout à l'heure, hein, Dominique.
Oui, c'est sûr qu'il y a du monde, effectivement, pour concurrencer Antoine Griezmann. D'ailleurs, on va voir ses stats. D'abord, cette saison, pour voir ce qu'il en est vraiment. Dans 4 matchs, 4 fois titulaire, aucun but. Il a eu peu de tirs, un seul tir cadré donc, dans ses matchs. 0 passe décisive, on l'a vu, 0 occasion. Mais pas de panique, puisqu'en 2014-2015, avec l'Atlético, il avait aussi connu des débuts difficiles. Il avait d'ailleurs inscrit son premier but qu'après 6 matchs, au 6e match, donc c'était en Ligue des Champions d'ailleurs.
On a de l'espoir.
Et ses premiers buts en championnat à cette saison, c'était lors de la 10e journée. Alors la concurrence, elle est là, bien sûr. Ansu Fati notamment, alors lui, il marque et il passe. Lionel Messi est présent également. Coutinho, qui a un esprit de revanche, est présent toujours. Le français Ousmane Dembélé aussi, qui revient de blessure, il a faim. Et puis on a dit les jeunes, Pedri notamment, qui a marqué cette semaine en Ligue des Champions. Et puis Trincao et Martin Braithwaite. Il y a du monde, effectivement, face à Antoine Griezmann.
Karim, vous le situez où par rapport à toute cette concurrence là dans la hiérarchie? Il est meilleur que ces jeunes-là? Il commence à être moins bon?
Non, je pense qu'il est derrière tout le monde.
Ah d'accord,
derrière tout le monde. Mais oui, parce que la semaine dernière, quand je dis la messe a été dite à Rétafé. La semaine dernière, lorsqu'il revient de l'équipe de France, il dit « je ne joue pas à mon poste ». Oui. On me dit « ok, tu as ta chance, on va jouer Rétafé dans la banlieue de Madrid, tu vas jouer à ton poste, derrière l'attaquant et tout ça, montre-nous ». Résultat des courses, rien. Quand on voit les stats aujourd'hui de tous ces gamins-là qui arrivent, ils ont plus de chance, ils vont plus vite, ils sont plus complémentaires, et ils ont la carte tous auprès de Messi. Et Messi préfère jouer avec Ansu Fati, qui a le même agent, il préfère jouer avec Coutinho où les ballons vont arriver, il préfère jouer avec la vitesse de Dembélé. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de place pour Griezmann. Et les gens qui l'entourent devraient lui dire à un moment donné, va ailleurs. C'est pas grave, il y a d'autres clubs dans le monde. Tu n'as pas réussi à Barcelone, tu réussiras ailleurs. Mais tant que Messi est là, il n'y a pas de place pour toi.
Nabil Djellit, faut pas qu'il
tout dit, pardon.
Vous voulez pas qu'il essaye encore un petit peu, qu'il force un petit peu, il a aucune chance.
Il est à Barcelone avec un contrat, donc faut quand même que il peut pas partir là demain. Hein.
C'est juste, après c'est pour un joueur, il est champion du monde, c'est aussi pour son image, son statut.
Un échec, ça
deux ans, il peut pas se permettre de faire deux années blanches. Je veux dire, c'est pas envisageable pour un tel joueur. Moi, c'est soit il devient le Batman, soit ça va être un Joker. Et être un joker, ça veut dire être remplaçant, être relégué dans la hiérarchie, être en compète avec des joueurs initialement avec qui il ne devrait pas être en compétition. Il y a les stats, c'est une chose, mais il y a surtout son impact dans le jeu, et il n'y en a pas. L'année dernière, il a su masquer la misère plus ou moins parce que c'est resté un joueur doué. Son implication défensive, elle est toujours saluée, mais au bout d'un moment, ça ne suffit pas. Celui qui lui fait le plus de mal là, dans la liste, pour moi, c'est Coutinho.
Ah ouais?
Ouais, c'est continu. Alors Messi, évidemment, ils sont pas à la même table et que c'est son club et il fait ce qu'il veut. Et s'il veut dézoner à droite où il y a Griezmann, il dézonera. S'il veut jouer dans l'axe, il jouera dans l'axe. Mais le retour en forme de Coutinho ne l'arrange absolument pas parce que Coutinho, la saison dernière, lui, n'était pas là. Il est revenu, on parle pas trop de lui. Il fait le taf sur le terrain. Koeman, il demande pas plus. Voilà. Après, je pense que dans le style de jeu du Barça, c'est vrai, Karim, il a raison. Il n'y a pas assez d'ailier. Griezmann n'est pas un ailier, ou un ailier de métier ou de formation. C'est un joueur de rupture qui rentre, qui est meilleur derrière l'attaquant. Mais Dembélé et Trincao et Fati, ils sont compatibles avec Messi. Ils pourraient être compatibles avec Griezmann. Mais Griezmann, ce n'est pas le chef du Barça.
Griezmann, il est beaucoup plus fort que Coutinho. Je veux dire, il suffit qu'il aille le chercher.
Moi, je demande à voir.
Coutinho, partout où il passe, tant qu'il n'y a pas de concurrence, il joue. Dès qu'on va le chercher, il ne joue plus.
Mais là, il joue. Là, il y a de la concurrence.
C'est comme d'habitude. Il arrive, il joue. Mais dès que tu vas le chercher, tu lui mets un peu la pression, il ne joue plus.
Il a été bon à Liverpool. Il est international brésilien. Neymar, il le veut à côté de lui.
Il n'a pas joué à Bayern.
J'entends que Griezmann est peut-être, bon, pour certains, plus fort que lui. Je pense que c'est pas exactement le même registre, mais ça reste quand même de la haute altitude.
Régulièrement, il sort de l'équipe à un moment. Je sais pas si
tu as raison, mais en fait, ça dépend où. Si tu mets Coutinho en équipe de France, peut-être qu'il ne trouverait pas sa place. Mais là, Coutinho est plus Messi compatible que Griezmann compatible. Et dans cette organisation-là, c'est compliqué.
Mais il a tellement été Messi compatible qu'il l'a envoyé au Bayern. Hein.
Moi, ce que je voudrais pas, c'est qu'aujourd'hui, il devienne le Mesut Özil de Barcelone. C'est-à-dire, j'ai un contrat, je reste, je suis bien là. J'ai un gros contrat et j'attends que ça passe.
Ça serait Mesut plutôt Özil.
Parce qu'il a un tel talent quand il joue en équipe de France qu'en fait, on a envie de le voir jouer et être heureux. Quoi.
Ouais. Moi, je l'ai compris, votre blague.
Non, mais après, vous parlez de transfert. Attendez, le transfert, il n'est pas facile parce qu'il a un énorme salaire. Je veux dire, partir, c'est pas si facile que ça. Il a un gros contrat.
Non, mais vous le voyez tous partir, mais s'il plante 3 buts, là, demain, dans le Classico, ça va devenir le héros.
On a tous envie qu'il parte, c'est différent.
Mais attendez, sur son talent, sur ses qualités, si le match tourne comme il faut, il peut mettre un doublé, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est pas de mettre un doublé contre le Real. Le problème, c'est de redevenir Antoine Griezmann de l'Atlético. Une des stars de la Liga, un joueur régulier qui enchaîne 10, 15, 20 matchs de très haut niveau. C'est ça, parce que l'année dernière, il a eu des fulgurances. Et de temps en temps, on voyait des buts ici. On faisait est-ce que la saison de Griezmann est enfin lancée? Trois semaines plus tard, est-ce que la saison de Griezmann est enfin lancée?
Traverser un moment difficile pour un joueur, c'est courant. Hein. Donc se reprendre, c'est possible.
On en parle lundi.
On en parle lundi, exactement. Très bonne conclusion. On se retrouve lundi autour d'un verre. Thibaut Vézirin, ça donne quoi sur les réseaux?
En attendant, il y a un exploit sur les réseaux, c'est que c'était habituellement le bashing Antoine Griezmann total. Et là, pour la première fois, avant
dans le Classico, on retrouve des Bamos Antoine.
Ah, ça fait du bien ça.
Prêt pour le Classico, avec des photos un peu plus à sa gloire. D'autres messages suite à la publication de cette action de l'entraînement du FC Barcelone. Petit lob, petit but d'Antoine.
Ça, c'est bon signe ça.
Voilà, un but avec classe diffusé hier soir sur les réseaux sociaux du Barça. Et même si je n'ai pas fait espagnol LV2, grâce à Google Traduction, je peux vous dire qu'il y a des messages positifs qui sont arrivés. La saison dernière, il a inscrit 16 buts. Je comprends qu'il traverse une mauvaise période, mais je ne comprends pas pourquoi il y a tant de haine. Grisou a beaucoup de talent, donnons-lui du soutien. Et c'était assez positif dans les messages. Bon, je ne vais pas vous mentir non plus quand même. Il y a d'autres messages pour lui dire la position idéale de Griezmann.
Oh non,
c'est celle-ci, sur le banc. Il y a toujours des gens qui lui en veulent absolument énormément, comme s'il avait fait du mal à leurs parents. Et voilà, et certains se disent même que si Griezmann ne saisit pas sa chance, il peut déjà faire ses valises pour la MLS carrément en janvier. Beckham serait ravi de l'accueillir à Miami. Griezmann a peut-être un peu d'autres clubs en vue que la MLS tout de suite. En tout cas, sur les réseaux sociaux, voilà, il y a une autre info, c'est que Théo Griezmann doit en avoir tellement marre de recevoir des messages au sujet de son frère, Théo Griezmann qui est dans la musique et dans le e-sport, il a supprimé tous ses tweets. Il n'y a plus de tweets, il n'y a plus rien. Alors qu'il a près de 100 000 abonnés. Voilà, il en a eu marre là, avant-hier, il a décidé de
stopper
tout ça.
Allez, c'est déjà l'heure de la pause, mais juste après, on revient avec le foutoir, la petite lucarne, le jeu, puis on s'intéressera au malheur du PSG et de l'OM. À tout de suite. L'équipe test, elle toujours en direct sur ce très beau plateau sur la chaîne équipe. On est bien, moi d'habitude je suis pas ici, on est bien reçu, je trouve. Hein, je vais venir squatter un petit peu plus souvent. Estelle, reste en vacances. Tout va bien, on s'occupe bien de vous, vous êtes bien reçu.
Ça va, c'est chaud.
Bon,
c'est
j'espère.
Bon. Il y a un café.
On va attaquer, non, parce qu'attention, il faut rester chaud parce qu'on va attaquer la grosse partie à présent. On va parler du PSG dans un instant. Hein. Ça fait au moins deux jours qu'on n'avait pas parlé de Paris, donc il était temps. Ce sera pour tout à l'heure. Tout d'abord, on passe au foutoir de Candice Roland. Mon number one. Ouh, qu'est-ce que c'est que cette petite musique? Le soutien du jour, qu'est-ce que c'est?
Eh bien, c'est Noël Le Graët au secours de sa sélectionneuse prolongée jusqu'en 2022 à la suite du report donc de l'Euro à cette date. Corinne Diacre s'est vue confortée dans son poste, donc aujourd'hui dans l'équipe. On est un peu sévère avec la sélectionneuse. L'équipe de France est dans les meilleurs du monde. Elle est troisième au classement FIFA. Corinne fait des changements, elle fait des effets et pour le moment, ça marche. Pas question donc de remettre en question son poste. Pourtant, Corinne Diacre fait face donc à la fronde de certaines de ses joueuses. Pour beaucoup, issues de l'Olympique lyonnais, son management, sa communication, ses choix sportifs sont autant de points de discorde. Et elle disait hier, je peux comprendre que certaines soient déçues de ne pas voir une telle ou une telle, mais ces décisions m'appartiennent. Moi, je respecte certains choix, certaines prises de parole, certaines choses. Je pense qu'il serait bien de faire la même chose à mon égard.
Alors, on rappelle que les filles jouent ce soir face à la Macédoine, dans une drôle d'ambiance. Qui est-ce qui est chaud là sur le sujet? Il a raison, Noël Le Graët, de soutenir sa sélectionneur?
Il a raison de la soutenir parce qu'il est président et que c'est lui qui l'a nommé.
C'est son choix.
Maintenant, pour Corinne Diacre, le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir raison contre ses joueuses. À un moment donné, on a besoin de ces joueuses parce que celles qui vont nous emmener. Surtout quand ces joueuses-là sont issues du meilleur club du monde. Donc, ça sera très compliqué et on n'a jamais raison non plus contre l'opinion publique. Donc, il faut mettre de l'opinion positive là-dedans. Sinon, ils ne s'en sentiront jamais, quoi.
Mais qu'est-ce qui va sortir gagnant de ce conflit-là? Ce sera la sélectionneur, ce sera les joueuses de l'OL.
Si la sélectionneur choisit des joueuses différentes de celles qui sont en mode fronde et qui a les résultats, elle aura réussi son coup. Mais au moins, on lui laisse l'opportunité de réussir son coup. Parce que je pense que dans d'autres situations, elle serait déjà plus là, entre guillemets. C'est comme ça, c'est la réalité du haut niveau. Karim, il a raison. Je veux dire, demain, concrètement, Griezmann, Pogba, Loris, j'en prends trois, j'en rajoute un quatrième si vous voulez. Ils sont pas contents de leur sélectionneur. Vous allez dire, ok, c'est pas la République des joueurs, mais le poids, il va être tel que ça va être intenable pour le sélectionneur. Donc ça interpelle quand même la gestion de cette histoire. Alors, Noël Le Graët a quand même expliqué que l'histoire de la prolongation, c'était quelque chose qui se faisait en fait automatiquement. C'est pas une prolongation qu'il avait décidée là. Non,
c'est
tout
parce
de suite.
Qu'en fait, l'Euro a été décalé d'un an. C'était de 2021 et c'est jusqu'à 2022.
Moi, j'ai bien aimé Corinne Diacre pendant la Coupe du Monde. J'ai bien aimé le jeu de l'équipe de France. Et puis, je me souviens que Jacquet avait viré Cantona, Papin, Ginola.
Et qu'à la fin, il avait eu raison.
Trois des meilleurs joueurs.
Cantona et Ginola.
Ouais, et Papin après, aussi un peu plus tôt. Voilà, deux très, très grands joueurs.
Enfin, Jacquet dans le vestiaire, c'était pas le management par la terreur.
Non, mais bizarrement, on lui laisse pas. Oui. Voilà, c'était juste une.
Moi, je crois qu'on traîne quand même un peu. Tu parlais de la Coupe du Monde féminine. On traîne un peu cette déception.
Ouais.
Cette élimination en quart de finale face aux Américaines qui étaient largement supérieures. Et que Diacre, finalement, On la regarde un peu de loin, avec distance.
Moi, on la prend pas pour la fautive quand même, vous n'êtes pas en train de me dire ça.
Non, mais c'est pas la fautive, mais moi ça m'interpelle quand même de voir, excusez-moi l'expression, des joueuses en on tirées à balles réelles. Je veux dire, c'est incroyable. J'ai vu une interview la dernière fois, j'ai été sidéré, je l'ai remise trois fois tellement j'en revenais pas, quoi. C'était la jeune Amel Majri qui parlait de l'absence d'Amandine Henry.
Oui.
Je veux dire, c'est que ça interpelle. Alors, bon, le groupe WhatsApp doit certainement bien vivre sans Corinne Diacre. En revanche, le groupe France, à mon avis, vit pas si bien que ça avec Corinne Diacre.
Bah, ce soir, elle est pas là, après, elle est
Ce qui est dommage, c'est
que. La vérité, c'est le terrain.
Ce qui est la dernière Coupe du Monde en France, il se passait quelque chose. Les stades étaient pleins, les audiences étaient au rendez-vous. Ouais. Et il y avait une vraie opportunité pour le football féminin qui aurait dû être incarnée par Corinne Diacre. Mais elle ne peut pas se fermer comme ça à la communication et ne pas transmettre quelque chose au grand public, à ses joueuses et tout. On a l'impression qu'elle est souvent dans sa tour d'ivoire. Et c'est ça qu'on lui reproche le plus.
Après, il y a la gestion de Katoto. Un coup, je viens pas, je l'ai fait venir plus tard. Amraoui, elle est blacklistée, on se demande pourquoi, alors qu'elle est très forte avec le Barça. Bon, voilà.
Thibaut.
C'est vrai que sur les réseaux, ils n'ont pas choisi leur camp, les supporters, les fans de foot, entre Le Graët et Corinne Diacre. Ils ne savent pas du tout sur quel pied danser, à l'image de ce tweet où ils nous disent Le Graët nous dit qu'il n'y a pas de racisme dans le football, donc il faut le croire pour les féminines et Diacre. En effet, pour question de crédibilité sur ces sujets, ils estiment que, voilà, entre Diacre, mauvaise communicante vis-à-vis d'eux, et Noël Le Graët, en ce moment, voilà, ils estiment qu'ils n'ont pas la vérité dans la bouche de l'un ou de l'autre.
Bon, et puis sur le jeu, c'était pas. J'entends Vikash, mais sur le jeu, moi je suis désolé, c'était pas non
vous a pas emballé.
Bah, à la Coupe du Monde, c'était trois milieux défensifs. Enfin, on a vu, c'était pas terrible.
Bon, ce soir, c'est face à la Macédoine et on leur souhaite bonne chance, évidemment, au bleu de Corinne Diacre. On passe à l'inquiétude du jour.
Oui, toujours dans l'équipe, le président de la fédération aborde l'imbroglio de Mediapro, évidemment, et il se montre inquiet. La situation est compliquée pour la Ligue. Cela créerait d'énormes difficultés pour les clubs français et même la fédération si Mediapro ne tenait pas ses engagements. Et d'ajouter plus loin, l'inquiétude est grande.
Vous êtes inquiet, vous aussi, sur ce plateau? Comment ça va se finir, cette histoire-là?
Laissons la parole à notre spécialiste.
Karine Nedjari.
Non, il dit une chose...
Forcément, les tuyaux.
Non, il dit une chose très importante ce matin, c'est que tout le monde oublie un petit peu, c'est qu'il y a 3% de tout ce qui doit être gagné qui doit revenir au football amateur.
Oui.
Et le football amateur va être privé de cette somme-là, plus la taxe Buffet, qui permet aussi un certain pourcentage pour le sport français, et on oublie tout ça. Plus tous les problèmes qui se passent en banlieue actuellement, à cause du Covid, c'est-à-dire que les bénévoles aujourd'hui n'ont plus les moyens de mettre du pétrole dans la voiture. Donc, les sports amateurs vivent une énorme crise et on l'oublie un petit peu.
On en parle pas beaucoup.
On parle beaucoup des gros salaires qu'il faut payer aux gros joueurs, mais tout ce football amateur et ce football, on va dire, même semi-amateur, souffre énormément. Et comment dirais-je, le problème Mediapro, c'est un problème pour le football professionnel, football amateur, football, mais aussi le
les
sport.
Je peux
pas poser
une question très vite.
Très vite.
Jusqu'à quand les images sur Mediapro? Ça va durer comme ça éternellement? Il ne paie pas. Il va falloir qu'on s'abonne.
Il est inquiet pour son abonnement.
Non, mais
je suis un peu inquiet, oui.
Mais à partir du moment où Mediapro s'est mis sous commission ad hoc, c'est-à-dire dans une conciliation avec le football français, vous ne pouvez rien faire, Dominique. Pour l'instant, ils sont protégés par la loi. Donc, c'est une commission qui aide les entreprises en difficulté à pouvoir négocier. Donc,
il faut que je renouvelle mon abonnement.
En attendant, pour l'instant,
il va falloir payer.
Il n'y a pas le choix. De toute façon, ils sont obligés de diffuser les matchs. Donc, votre abonnement, vous avez quand même les images encore.
Allez, on enchaîne avec l'affiche du jour.
Rennes-Angers, ce soir à 21h au Roazhon Park, avec 5000 spectateurs pour la dernière fois à 20 moments, puisque le couvre-feu arrive aussi à Rennes. Des Rennais 3e du championnat, invaincus, qui reçoivent les Angevins 11e donc au classement. Retour au quotidien donc pour les Bretons après les joies de la Ligue des Champions. Julien Stéphan, l'entraîneur rennais, est au micro de Charles Guillard.
Non, mais il faudra voir aussi comment on a récupéré ces trois jours après un match européen. On sait que c'est extrêmement particulier. Trois jours, c'est très peu pour récupérer. Pas tant physiquement, mais c'est aussi la bascule mentale. On n'a pas de repères par rapport à ça. Donc il va falloir la faire. Ça, c'est une certitude. Non, je sais pas si on est favori. En tout cas, il y a la volonté de basculer très vite sur le championnat, d'évacuer le match de mardi et de ne penser qu'à ça. On est deuxième aujourd'hui, on est bien placé, on fait un très bon début de championnat sur le plan comptable. Donc ça doit naturellement nous permettre de rebasculer et de repenser qu'au championnat.
Et justement, on a quelqu'un qui va suivre ce match avec attention, c'est notre envoyé spécial Bertrand Latour, que l'on retrouve en direct du Roazhon Park. C'est à vous Bertrand, les dernières infos autour de ce match, qu'est-ce qu'on a loupé là, qu'est-ce qu'il faut qu'on sache?
Bonsoir France. Non, mais en tout cas, le sonore de Julien Stéphan est assez éclairant sur l'état d'esprit, en tout cas, du coach et également du groupe rennais. Le tout, la clé, c'est de pouvoir enchaîner les rencontres. Il y a celui qui vient de se passer, le match face à Krasnodar il y a 3 jours. Et puis, il y a encore un autre événement important pour Rennes. Ce sera mercredi prochain en Ligue des Champions contre Séville. Les clubs qui doivent beaucoup enchaîner. C'est une nouveauté quand même pour les rennais qui, ces dernières années, avaient l'habitude plutôt de jouer l'Europa League. Ils savent ce que c'est d'enchaîner des matchs. Mais là, c'est une compétition supérieure. Et dans le même temps, il faut quand même gérer voilà, le pain quotidien et gagner ces matchs de championnat, d'autant que Rennes est à domicile. Rennes est favori, il y a un groupe qui est plus élargi que les années précédentes à Rennes, c'est d'ailleurs pour ça que Julien Stéphan va établir un turnover, je ne sais pas, en tout cas il y aura une rotation par rapport aux joueurs qui ont joué contre les Russes il y a de cela 3 jours, avec l'intégration de nouveaux joueurs, la première de Doku qui a été achetée 26 millions d'euros en provenance d'Anderlecht. C'est une des curiosités de notre championnat, une des curiosités du mercato estival, donc ce sera l'occasion de voir un peu son apport. Il a fait une bonne rentrée lors de son dernier match, donc voilà, rotation à venir pour Rennes, puisqu'on ménage les forces en présence tout en sachant que le calendrier, comme je le disais, est très dense.
C'est complet, c'est efficace, c'est du Bertrand Latour. Merci Bertrand, couvrez-vous parce que ce soir j'ai l'impression qu'il ne va pas faire chaud du côté du Roizen Park. C'était l'affiche du jour, on passe aux explications du jour.
Et qu'arrive-t-il à Moussa Dembélé à Lyon, toujours 0 but marqué cette saison, il n'était d'ailleurs pas titulaire lors des 2 derniers matchs, et donc la question a été posée aujourd'hui à Rudy Garcia en conférence de presse. On l'écoute, il est au micro de Jérôme Marié.
Il est très important. Je souhaite qu'une chose, c'est qu'il retrouve le chemin du but, parce que je sais que pour un buteur, c'est important de marquer. Après, pour un coach, c'est pas la chose la plus importante. Moi, si mes joueurs font des grandes performances et qu'ils marquent pas, ils ont toutes mes félicitations. Donc, il faut simplement aider Moussa, être derrière lui, qu'il soit impliqué comme il l'a fait quand il est rentré en jeu. 5 changements, ça veut dire que la moitié de l'équipe commence le match, mais ne finira pas. Donc, pour moi, c'est pas important qu'il commence, qu'il rentre en jeu. Par contre, c'est important que les 60 minutes que vous passez sur le terrain, vous soyez au top.
Ça vous a fait un peu rire, ces déclarations contradictoires de Rudy Garcia.
Ce qui est important pour Rudy Garcia.
Pas qu'il marque ni qu'il finisse, en fait.
Peut-être pas important pour lui, mais pour Dembélé, c'est important.
Ouais, il nous manque un petit peu quand même. Enfin, il manque au Lyonnais, là, j'ai l'impression, cette petite baisse de régime.
Pour lui, c'est une sanction de ne pas jouer. Ça veut dire qu'il ne marque pas, il n'est pas décisif. Et même si l'équipe gagne et qu'il ne marque pas, c'est jamais bon pour un attaquant.
Il a besoin de confiance.
C'est une valeur marchande également du club. C'est un joueur qui devait partir peut-être s'il avait eu des offres. Mais je pense que pour Dembélé, l'horizon s'éclaircira. Si Depay devait partir cet hiver, parce que Depay il prend la place devant, et Dembélé c'est un gars pour qui il faut jouer.
Voilà. D'accord.
C'est quand même fantastique. Il y a 3 mois, on faisait des débats ici en disant ça va être terrible à Lyon, ils vont tous partir.
Et puis
et aujourd'hui,
ils sont tous
on
là.
Dit il y a trop de monde, et ils peuvent pas jouer.
Il faut qu'ils partent.
Donc il faut qu'ils partent.
Allez, on enchaîne.
Pour lui,
ouais. La récompense du jour à présent.
Ibrahim Agnan a été le plus fort au mois de septembre. Il a d'ailleurs été élu meilleur joueur de Ligue 1 donc sur cette période, en tête au classement des buteurs avec 6 réalisations. Le Messin est le premier joueur distingué cette saison, mais malheureusement, il faudra attendre plusieurs mois pour le revoir sur un terrain après son opération à un genou.
Alors ça fait très plaisir à Julien Chalouette, notre chef d'édition qui est Messin. Est-ce que vous, ça vous fait plaisir? Est-ce que c'est mérité?
Je pense que Agnan, il serait bien passé du trophée du mois.
Pourquoi?
Contre une blessure. Enfin, oui. C'est...
Ah, contre une blessure, j'avais pas compris.
Bah oui, il mérite parce qu'en plus, il a marqué ses 5 ou 6 buts en 3 c'est matchs, bien. Dont 2 fois à l'extérieur. Je me souviens de ce but du côté de Marseille. C'est un joueur extrêmement intéressant. Dans quel état il va revenir? C'est toujours une blessure qui est compliquée, même si c'est un jeune joueur. C'est un joueur d'avenir, mais franchement, moi, c'est plus la frustration là, qu'autre chose.
Allez, autant... on va le revoir.
Bah ouais, mais il faut attendre. Et Diallo est parti en plus du côté du FC Metz, donc c'est compliqué pour nos amis lorrains.
Ibrahima Nian, donc récompensé. L'exception du jour.
Ouf, l'honneur est sauf grâce au Lillois hier soir. Ah. Seule victoire européenne pour un club français. C'est un succès 4-1 à Prague. Le premier beau but. Et
oh, c'est
Youssouf Zazici.
Oui.
Il évolue alors donc en supériorité numérique. Surprise au retour des vestiaires, le Sparta égalise. Mais Yazici était dans un grand soir, triplé pour le joueur turc. Jonathan Ikone d'ailleurs lui enlève le hat-trick avec ce but à la 66e minute. Yazici va inscrire le 4e. Lille, leader du groupe donc devant l'AC Milan, tombeur du Celtic Glasgow. Belle entrée en matière des docks de Christophe Galtier.
On écoute, non? Je pense pas qu'on... Est-ce qu'on écoute Christophe Galtier? Hein, on peut, hein, on l'écoute.
Peut-être qu'il va dire que c'est pas important pour Yazici de marquer.
Oui. C'est une belle victoire à l'extérieur, entamer la compétition par une victoire, c'est toujours très intéressant. Les joueurs ont été solidaires, sérieux, ils ont de l'ambition, tant mieux. Voilà, c'est important pour le club, pour nos supporters qui ont dû prendre plaisir à regarder l'équipe gagner. Ça crée une dynamique de groupe aussi, et voilà, on va bien récupérer ce soir, nous restons sur place pour bien récupérer, parce qu'il faut remettre le couvert dimanche face à Nice. On va aller dans une autre compétition avec voilà aussi cette envie de faire des résultats dans les deux compétitions.
Alors, on va parler un petit peu de Lille, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, oui, vous ne parlez pas de Lille, là, dans la rivière, mais si, mais on en parle maintenant, du LOSC. Est-ce qu'on peut se prêter un petit peu au rêve, là? C'est quoi dans le reste du groupe? On l'a dit, AC Milan, Celtic Glasgow, il y a un vrai coup à jouer pour le LOSC dans cette Ligue Europa?
Ah bah oui, bien sûr.
Ça, là, c'est l'île de la tentation, non, Dominique?
Oh là, je ne peux pas passer derrière toi.
Allez-y, non, quand même.
Pas, non. Non, mais tu mets la barre trop, vas-y, prends, garde la parole. Non, t'es trop brillant, t'es trop brillant.
Ah non, très sincèrement, vas-y, parce que je te sais très chaud sur...
C'est la meilleure équipe française.
À l'heure actuelle?
À l'heure actuelle, à la seconde, oui. Devant le PSG.
Ah, d'accord.
Et la question, c'est de savoir si le Lille peut rivaliser avec le PSG.
On s'était posé la question, oui.
Ben, je pense que oui, parce qu'ils ont un entraîneur de caractère, Galtier, qui est peut-être d'ailleurs le meilleur entraîneur français aujourd'hui. Ils ont un capitaine de route, en la personne du Portugais Fonte, ouais, qui est juste génial. Il y a une vraie cohésion, je dirais, sociale entre les joueurs. En fait, c'est l'équipe au sens premier du terme, quoi. Voilà, ce sont des mecs concernés par un même objectif. Il y a un effectif très intéressant. On a vu hier un joueur qu'ils ont acheté l'été dernier, pas cet été, mais l'autre été, 17 millions, le Turc Yazici, qui n'a jamais que 23 ans et qui a montré hier, et pas seulement avec ses trois buts qui sont magnifiques, que c'était un grand, grand, grand joueur. En fait, la seule ombre au tableau aujourd'hui, une petite, hein, c'est l'acclimatation de Jonathan David, qui vient du championnat belge, qui n'a pas encore marqué le moindre but. Mais lorsque celui-ci va prendre ses repères,
ils s'en sortent sans lui pour l'instant.
Il va être très, très compliqué à jouer pour n'importe quel adversaire en France.
C'était le point LOSC. Merci Dominique Grimaud. On enchaîne avec la déroute du jour.
Attendez.
Ah, oulala, pardon.
Délire.
Qu'est-ce qui se passe?
Je croyais qu'il y avait Nabil, je croyais qu'il y avait du monde. Non, sur Lille, il faut préciser que justement, Yazici, roi du monde sur les réseaux sociaux.
Yazici, vous?
Oui, Yazici, vous le prononcez à l'italienne?
Je sais pas.
Moi, c'est je le prononce à la turque, tout simplement. Non, Youssouf, en tout cas, il l'a dit, j'ai toujours cru au pouvoir du travail acharné. La vie peut avoir des moments de haut et de bas, il peut y avoir des peines et des joies, mais une chose qui ne change pas, travailler dur sera toujours payé au bon moment. Il est poète, hein, également. Et donc, nous continuerons à travailler, à y croire. Il a même été élu dans le top des meilleurs joueurs d'Europa League de la semaine. Il est ici, vous le voyez. Il a été à l'honneur aussi dans la dernière vidéo du LOSC où il a dit un petit mot en français. D'ailleurs, regardez-le juste ici, il va parler en français.
Je suis très heureux ici.
Voilà, il parle en français parce que il faut se rappeler que les réseaux sociaux et les supporters sont versatiles et qu'il y a un an encore, eh bien, le 2 octobre 2019, on disait de lui qu'on ne me dise plus de laisser du temps à Yazici. Il est clairement nul à chier. Le deuxième but de Chelsea part encore de ce putain de Yazici honteux. Donc voilà, comme quoi dans le foot, on parlait de Griezmann tout à l'heure, on peut renverser la vapeur. C'est comme dans la vie, en effet. Et donc, eh bien, hier soir, c'était le LOSC bébé, en effet, donc, la seule équipe française à avoir remporté un match cette semaine en Coupe d'Europe.
Pour un Turc, ça bosse fort. Donc.
Voilà. Il fallait qu'il la fasse.
Non, c'est là, du coup, elle est connue, mais là, ça va.
Ce qui est bien, c'est que tu encadres Dominique.
Tu peux le mettre sur le banc. Hein.
C'est vrai?
Ah, bah oui.
Vous allez sur le banc. C'est Dominique qui a décidé pour moi. Oui, bah vous êtes
pêcheur.
On enchaîne avec la déroute du jour pendant ce temps, Candice.
On ne joue que depuis 11 minutes quand Amiri ouvre la marque pour le Bayer Leverkusen face à Nice. Petit pont sur Dante, frappe croisée. Le 2-0, lui, va arriver dès le quart d'heure de jeu. Superbe frappe sous la barre.
Ah là là, c'est beau ça.
Benitez est trop court. Et puis à la demi-heure de jeu, Nice se réveille par Aline Gouiri. La passe est signée Stanley Nsoki. Et Benitez, d'ailleurs, on va le retrouver pour offrir le troisième but à Leverkusen. Relance terrible sur Schneiderlin. Palacios au pressing. 3-1 pour les Allemands, soit la moitié du score final. 6-2 donc pour le Bayer.
C'est lourd.
Nice recevra la Poel Cherchéva jeudi prochain.
Karim, je vous entendais parler de Patrick Vieira pendant la pub. Vous êtes inquiet, il est critiqué en tout cas.
Non, ce que je dis, c'est que Patrick Vieira a une vision quand même du football très, on va dire, parfois romantique. Là, je vois le but qu'on vient de voir, l'avant-dernier but, relance de derrière et tout ça. Tout le monde n'est pas Manchester City. Et je pense que c'est bien de vous apporter. Moi, je félicite qu'ils prennent des risques, tout ça. Mais parfois, on a l'impression que c'est quand même un romantique au milieu des requins dans le championnat de France. Et c'est très dur pour lui d'avoir ces idées-là, de les appliquer. Et je ne suis pas sûr qu'il ait les joueurs pour ça. Je sens qu'il y a une certaine fébrilité quand il joue. Et il a besoin de gagner des matchs. Sinon, malheureusement, on ne lui laissera pas de temps. Ouais. Parce qu'il est arrivé avec la carte. Et aujourd'hui, j'entends ici et là les doutes qui l'entourent.
Il commence à être remis en question.
Pourtant, cette année, il a quand même un peu de matériel par rapport aux autres années.
D'accord. Prenez votre temps pour revenir en plateau. Tranquillou.
Un peu de sanitaire, il a raison.
Ça va, c'est pour le gel.
Là, en tout cas, ça,
c'est un petit jeu de mots sur Brice de Nice.
Oui.
Non, bah, arrêtez, non, arrêtez, ne relancez pas, il va retourner.
Hier, c'était Brice de Nice, surtout.
Allez-y.
En effet, sur les réseaux sociaux, les supporters, ils sont toujours fous de rage après Patrick Vieira. C'est l'homme derrière les mots niçois. Je tweeterai cette photo tous les jours jusqu'au jour où il se fera virer par le GC Nice. Voilà, il y a du travail derrière ça. Hein. C'est un artiste qui a fait ça. En effet, d'autres hashtags ont repris le hashtag Vieira out. Heureusement que le couvre-feu arrive, entraînant les huis clos avec, parce qu'il mérite une belle bronca et des banderoles. Les supporters sont vraiment agacés de cette humiliation d'hier. Comment tu peux encaisser 3 buts en 8 minutes? Ce n'est pas qu'une simple défaite. C'est un échec collectif, un match sans âme, sans hargne et avec une défense à l'agonie. Il va falloir se racheter et très vite avec le hashtag à nouveau Vieira out.
Il n'y a rien qui va.
Non, c'est chaud à Nice, c'est chaud.
Allez, le retournement de situation du jour, on va retrouver le sourire.
Oui, c'est Arsenal qui s'est fait très peur hier sur la pelouse du Rapide de Vienne. Peur comme la relance de Leno, le gardien des Gunners, pas aidé d'ailleurs par David Luiz. But du grec Funtas.
La relance.
On joue depuis 51 minutes et puis l'ancien Parisien va se rattraper 20 minutes plus tard sur coup franc de la tête. Le coup franc est signé Nicolas Pépé. Et puis l'entrée de Pierre-Emerick Aubameyang qui change tout. C'est lui qui va arracher la victoire à la 74e minute. C'est son troisième but cette saison.
Et puis on va enchaîner avec le golasso du jour.
La Ligue Europa, toujours le Standard de Liège qui recevait les Glasgow Rangers. 1-0 pour les Écossais dans le temps additionnel de la deuxième période.
Incroyable.
Victoire assurée avec le chef-d'œuvre de Kemar Roof. Dribble et frappe de plus de 50 mètres. Je crois qu'on peut dire que c'est un Roof top.
Avec un slalom avant.
Oh, attendez, est-ce qu'on a entendu le jeu de mots de Candice Roland?
Elle a dit un Roof top hier.
Pas mal le Roof top.
J'aime bien moi.
Parce qu'il s'appelle Roof en fait. C'est un top.
J'y réfléchis. En fait, Candice a été plus rapide.
On enchaîne avec un moment auquel tient beaucoup Dominique Grimaud, l'anniversaire du jour.
Parabéns pra você. Joyeux anniversaire à Pelé. La légende brésilienne fête ses 80 ans aujourd'hui. Et pourtant, c'est lui qui a offert un cadeau à ses supporters. Une chanson écrite en 2005, mais mise en musique seulement cette année. Acredita no Bello, écoute le vieil homme, composé avec le duo de guitaristes mexicains Rodrigo et Gabriela. Ça donne ça.
Pode falar nesse fim, que o velho tem força, faz seu time ganhar. O dinheiro é pro santo, pode pagar nesse fim, que o velho não cobra, pra trabalhar.
Évidemment, tous les droits d'auteur iront à l'association Pelé.
Attendez, laissez finir. La semaine prochaine, ce sera Maradona, les 60 ans. D'ailleurs, France Foot prépare un numéro spécial mardi. Bon, alors, c'est à vous. Vous nous avez demandé la parole. Vous avez 30 secondes.
C'est qu'on nous met toujours les images de la Coupe du Monde 70 du Mexique. C'est vrai qu'elle était magnifique. Mais pour les plus anciens, ceux qui connaissent vraiment le football, Pelé, c'est d'abord la Coupe du Monde 58 avec Garrincha, Vava, Didi. C'est celle-là, surtout, qui a marre. Et Zagallo, qui est toujours, qui a 89 ans, et ce sont les deux survivants, Pelé et Zagallo, de cette Coupe du Monde 58, qui était la première pour le Brésil.
Ramenez-nous les images la prochaine fois.
Pardon. Des photos noires et blanches.
Ah bah voilà pourquoi on ne les montre pas.
De Roger Criégère.
J'ai des images en couleur.
C'est vrai
montrer, non pas la Coupe du Monde 58, mais un de ses plus grands fans qui lui a souhaité un joyeux anniversaire, la relève, en quelque sorte, Neymar, qui est désormais avec le même équipementier que lui,
c'est vrai.
De la même façon que le roi Pelé. Voilà,
ça sent l'opération commerciale quand même.
Un joyeux anniversaire au King.
Allez, merci à tous les deux. Il faut qu'on parle absolument vélo. On va faire une petite parenthèse, messieurs, dames, parce qu'il s'est passé un événement assez bizarre sur le Giro que l'on diffuse depuis le début de la compétition. On va retrouver Claire Bricogne en Italie. C'était la 19e étape aujourd'hui. Les cyclistes ont fait grève. Mais comment c'est possible, cette histoire? Racontez-nous.
Oui, nous aussi, on a du mal à trouver le mot exact approprié, France, vous inquiétez pas. Alors déjà, c'est Joseph Cerny qui a gagné l'étape parce que oui, il y a eu une étape, le coureur tchèque de l'équipe CCC. Ça, c'est la première information. La deuxième, c'est qu'en effet, le départ ne s'est pas passé comme prévu à Morbegno. On était bien là où on devait normalement prendre le départ de l'étape, aux alentours de 10h. Et puis un tout petit peu avant, quelques minutes avant, on a compris au fur et à mesure des interviews des coureurs qu'il se passait quelque chose et qu'il y allait avoir un mouvement. Alors qui exactement? nous a mentionné plusieurs équipes. On a dit qu'il n'y avait que deux équipes qui n'étaient pas forcément dans ce mouvement, à commencer par Ineos et la Lotto Soudal. Ça, ce sont les informations qu'on a, mais à côté, eh bien, on se demande encore ce qui se passe. Eh bien, en fait, les coureurs ne se sont pas présentés sur la ligne de départ et ont demandé à ce qu'on raccourcisse l'étape. Voilà le fait du jour. France, on était sous la pluie à ce moment-là. C'est pas la seule explication. Il y a la pluie, il a le dénivelé des deux précédentes étapes, étapes de montagne qui étaient vraiment très conséquents. Et puis cette grosse semaine, dernière semaine, puisque beaucoup de coureurs ici disent que c'est la plus dure semaine qu'ils ont eu à vivre sur une course de vélo et dans leur carrière de cyclisme. Donc ça, c'est ce qui s'est passé au départ. Finalement, les coureurs sont remontés dans leur bus, toujours sous la pluie battante. Ils ont fait plus de 100 km en bus et à 123 km 500 de l'arrivée sur le parcours initialement prévu, ils ont pris le départ d'une nouvelle étape. Donc, sauf que les conséquences, c'est tout simplement que eh bien, l'organisation n'a pas compris, reproche aux coureurs d'avoir fait cette demande tardivement, de ne pas l'avoir fait hier par exemple. Et donc il y a vraiment deux sons de cloche, c'est un petit peu une bataille entre aujourd'hui l'organisation et les positions de certains coureurs. C'est surtout pas très clair de savoir vraiment qui pensait quoi au début. Toujours est-il qu'il y a eu une étape et surtout que le Giro continue. Il continue demain avec une étape de montagne. Arrivé au sommet, on passera trois fois l'ascension de Sestrières, les grimpeurs vont s'expliquer. Et puis il y aura bien sûr le contre-la-montre de Milan. On rappelle, France, qu'il y a trois coureurs aux trois premières places du classement général à 15 secondes d'écart.
Bon, vous nous redonnez le sourire, Claire Bricogne, merci beaucoup. Et on sera évidemment au rendez-vous demain midi pour ne pas rater la suite de cette compétition. On est vendredi, je suis un tout petit peu déçue parce que Pierre-Antoine Damcourt n'est pas là. Mais heureusement, on va retrouver le sourire parce qu'il nous a préparé un beau best-of de sa petite lucarne. On y va.
Vendredi, il est là.
Alors ce soir, Paris affronte Manchester United. Alors pour voir la rencontre, un seul moyen, Estelle, il faut être abonné voilà, aux chaînes qui diffusent le match. Mais certains sont un peu radins, du coup, bah, ils ne s'abonnent pas, mais ils trouvent quand même un moyen de regarder le match. On en a rencontré un, c'est Confession Sportive avec Fabien, très radin.
Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Fabien Rapia. Ce passionné de football ne rate pas un match de Ligue des Champions à la télé. Pourtant, il n'a jamais payé un abonnement à une chaîne. Car il a un gros défaut, Fabien est un gros radin.
C'est gratuit, hein.
Non, je suis pas radin, c'est juste que je fais attention à mes sous, quoi, hein. Comme tout le monde, finalement.
Fabien est malin, il utilise toujours la même astuce. Il se fait inviter chez ses collègues de bureau pour pouvoir regarder les matchs sans dépenser un rond.
Quoi, c'est quand même plus sympa de regarder le foot entre collègues, non ? Non ?
Non.
Non.
Visiblement, ses collègues ne sont pas vraiment du même avis.
Oh, franchement, il y en a plein de Fabien. La dernière fois encore, il est venu et il a pété la coudoir sur le but de Di Maria.
Fabien, j'en peux plus. Il se ramène chez moi à chaque match, il fait ses blagues pourries, il ramène rien à manger, j'en peux plus. Une vraie pince, ras-le-bol.
Opportuniste, Fabien est donc très sélectif dans ses relations avec ses collègues.
Salut Fabien, ça va ?
Oh, salut Sylvain ! Eh, super mon pote, hein. Je t'adore. En fait, c'est un vrai con, mais je suis obligé. Il est abonné à Canal, Téléfoot, Bein. T'es un super mec. Quel con.
Salut Fabien, t'as passé un week-end ?
Lui, il m'intéresse pas. Il a ni Canal, ni Bein, ni RMC Sport. Alors, je m'en fous, lui.
Depuis le couvre-feu, rien ne va plus pour Fabien, car il doit impérativement dormir chez un collègue, ce qui n'est pas chose facile.
Ah, là-bas, c'est Eric. Il est super. Enfin, surtout, il a Bein Sport, Canal et Téléfoot. Salut Eric. On se fait le match chez toi ce soir. Je ramène un fond de paquet de chips.
Ah non, ce soir c'est pas possible, il y a un couvre-feu et puis 135€. Attends, c'est pour toi quoi.
Ah non, mais j'ai mon pyjama et puis j'ai prévu les chaussons aussi. Soirée pige. Eric, soirée pyjama.
Mort.
Oh mais non, mais c'est pas mort. Eric. Eric, reviens, je sais où t'habites.
Fabien ne perd pas espoir pour autant, quitte à harceler Eric jusque dans la rue.
Eric, Eric, attends-moi, Eric.
Lâche-moi, gros.
J'ai mon pyjama, Eric, sois pas salopard. Ça va être super, Eric ! Eric, héberge-moi !
Sans espoir, Fabien a laissé filer Eric. Mais il pourra se consoler en regardant la grande soirée sur la chaîne L'Équipe.
Merde !
C'était la 18e étape du Giro sur la chaîne L'Équipe avec la montée infernale du col du Stelvio.
Vincent a adoré.
Vincent a adoré. Et alors, France, avez-vous déjà essayé de mettre un coupe-vent dans un col hors catégorie, tout en roulant.
Ah oui, je crois qu'il y en a un qui...
Non, mais c'est impossible, vous êtes d'accord. Il faut être un professionnel. Voilà, comme l'Australien Jay Hingley. Il va vous montrer comment on fait.
Ah, c'est pas facile l'exercice.
Attention.
Il faut trouver la manche, là.
Il faut trouver la manche, ouais. Grosse, grosse galère. Allez, on est avec lui, courage.
Ça a duré longtemps, en plus.
Ah ouais, terrible, regardez. cette manche bloquée derrière. Allez, il faut garder le rythme.
Imaginez le temps qu'il
espère qu'il y a pas... On espère qu'il n'y a pas un photographe qui va en profiter pour prendre une photo. Oh, le salaud. Allez, Jay, il va y arriver. Oh là là. Oh, là, 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 attention. Attention, Jay. Allez, allez.
Je l'aide.
J'ai jamais vu.
Parce qu'il est devant.
Non, mais je veux dire, les gens qui prennent des photos.
Attendez, c'est maintenant, je crois.
Allez.
Oui. Allez.
Oui. Oui. Oh, le mur.
Ça doit être agaçant.
Oui, bravo. Il l'a fait. Il l'a fait. Champion. Benoît, est-ce que vous avez déjà dévissé des frappes, mais genre dévissé, ça sort du stade?
Non, quand même pas.
Allez.
Non, quand même pas. Non, non.
Une petite.
Non. Une petite.
Ah, une petite.
À l'entraînement, petite. Sur le parking, ça arrive derrière. regardez, là, on a une belle perf, là. C'est pas mal.
Burgzorg. Hardeveld. En Vloed.
Boum. Ah ouais, ouais. Et non, mais attendez, parce qu'ils ont suivi le ballon avec la caméra. Vous allez voir, il va où ce ballon?
Je crois que je sais.
Bam. Et à votre avis, qui traversait la rue juste à ce moment-là de l'autre côté?
Monsieur
Poisse. Ah bah.
Philly, la boîte, hein. Philly, maintenant je l'ai eu, votre ballon. Je l'ai eu.
Oh là 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 là.
Il y a des effets spéciaux.
Hollywood. Hollywood.
Voilà, Pierre-Antoine Damcourt, que vous aurez le plaisir de retrouver dès lundi, évidemment, aux côtés d'Estelle Denis, si elle rentre, je ne sais pas. On revient à notre prochain débat, le Paris Saint-Germain. Je sais que ça vous a manqué, hein, ça fait beaucoup, beaucoup de jours qu'on en avait parlé. Pourquoi on parle du PSG? Eh bien, parce que cette semaine, lors de la défaite en Ligue des Champions face à Manchester United, on n'a pas franchement senti de révolution. Personne n'a haussé le ton. Alors, dans le vestiaire, on n'y était pas, mais sur le terrain, non plus. Où sont les patrons, Candice?
Dans le doute, ce vestiaire, on en parlait hier dans l'équipe, évidemment un vestiaire sans ambiance avant le match, sans esprit de révolte à la mi-temps du match, donc face à Manchester. Des joueurs qui critiquent le mercato de la direction, d'autres qui s'en contentent. C'est assez pour la Ligue 1, mais pas pour la Ligue des Champions. Hein, Thiago Silva pas remplacé. Autant de sujets qui divisent au sein d'un groupe où peu de voix s'élèvent.
Alors à vos ardoises, messieurs, dames, voici la question qui va vous plaire, j'en suis sûre. Y a-t-il un patron au PSG? Nabil, vous aviez tout le temps d'écrire votre réponse.
Moi, l'envoyer sur le banc.
Oui.
Neymar. Ok, c'est vous le patron. Oui, à Doha. Très bonne réponse. Marquinhos, Neymar, Leonardo. Ouais, d'accord, c'est des bons exemples. Des leaders, moins des patrons. Il y a une petite nuance. Neymar bosse à temps partiel. Il va falloir m'expliquer pourquoi. Non, pour Vikash Dorasso. Allez, Vikash, c'est vous qui vous mouillez. Il n'y a pas de patron dans cette équipe.
Bah non, et je ne pense pas que Neymar non plus soit le patron. Je pense que Neymar et Mbappé, par exemple, qui sont importants et qui prennent un peu, on a le sentiment qu'ils prennent le pouvoir sur le joueur et surtout sur l'entraîneur. Mais c'est surtout que l'entraîneur a perdu le fil. Je veux dire, il a perdu le pouvoir. Et je pense que c'est le moment peut-être d'aller chercher quelqu'un, un nom, un joueur qui va se faire respecter, qui a un palmarès, peut-être un ancien grand joueur, peut-être un mec qui est au Real Madrid, par exemple. Et comme ça, ça pourrait permettre aussi, plutôt que d'envoyer des joueurs au Real Madrid, en fait, de les garder et puis de les prolonger. Ce serait beaucoup plus simple. Mais évidemment, il faut quelqu'un de plus fort dans le vestiaire. C'est à cet endroit où ça va plus. En conférence de presse, Tourelle, on l'a senti. Je dirais pas atteint, juste pas comprendre quoi ce qui se passait, pas voir les solutions, une sorte de peut-être d'abandon, enfin de démission de son rôle, voilà. Donc moi je vois que un grand entraîneur pourrait changer la donne et reprendre le pouvoir et se faire accepter aussi par les Neymar et Mbappé.
Est-ce que vous voulez qu'on l'écoute, Thomas Tuchel?
Oui. Vraiment.
Alors vous allez voir, il était un petit peu agacé. Ça fait beaucoup de temps qu'il est agacé, mais là particulièrement. On y va.
On parle de Manchester, oui, on parle toujours Manchester, 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 mais qu'est-ce que la réalité? La réalité est que j'ai un entraînement aujourd'hui pour préparer un match en Ligue 1. Et ça donne l'ambiance dans laquelle on travaille, parce que ma tête est pour Dijon, mais cette conférence presse, c'est pour un retard pour Manchester, Manchester, Manchester. On a une défaite, on a une défaite, on a une défaite, on a une défaite, on a une défaite. Mais ma tête, c'est déjà fini. On peut pas parler de Dijon. This is exactly why I don't read, why I don't Google my name. And why, no, I do in English. Why I don't read. Si on n'a pas un numéro 9, on va continuer de jouer sans numéro 9. It's a bit kind of a ridiculous question. If you do your homework and check who is available, then maybe we can continue with the second part of the question. Si on a gagné contre Manchester, vous pensez qu'on fait une célébration pour 3 jours? C'est pas possible, ça continue. On va penser aujourd'hui de Dijon, mais c'est, les conférences de presse après Manchester, c'est pour Manchester. Et avant Dijon, c'est pour Manchester. Et après Dijon, c'est bien sûr de Manchester, bien sûr. Et où Ligue des Champions.
Okay. Il est tellement énervé qu'il fait bouger la cam, il en perd son français. Enfin, il est tendu quand même un petit peu en ce moment-là, Nabil.
Ah bah oui, de toute façon, ça fait un moment qu'il est tendu. Mais en même temps, si les gens lui posent des questions sur Manchester,
c'est que ça nous intéresse.
Oui, et puis c'est peut-être qu'il répond pas aux questions. Parce que juste après la défaite face à Manchester, le seul truc qu'il a trouvé à dire, c'est « Ouais, j'ai l'impression que l'ambiance n'était pas la même dans le vestiaire. » Je veux dire, à un moment, il a le droit aussi de faire une autocritique, quoi, collectivement. Qu'est-ce qui va pas? Il a le droit de dire des choses. Pas obligé de pointer des joueurs, forcément. Hein, c'est pas ce qu'on lui demande et c'est pas son rôle, à mon avis. C'est plutôt d'être derrière ses joueurs. Mais il a aussi le droit de dire des choses. Et il dit jamais rien. Et il se cache derrière des excuses. Ouais, on a plein d'absents. Ouais, on a eu ceci ou on a eu cela. Mais enfin bon, Nîmes, quand il va aller jouer, moi, j'ai pas entendu les mecs de Nîmes chialer. Ferrat, il est pas là. Nous, on a eu des matchs annulés. Enfin voilà, je veux dire, on attend quand même un autre discours de sa part. Donc oui, le terme, c'est une forme de résignation. De toute façon, depuis Manchester United, pas ce Manchester United-là. Il y a deux ans, il a une gestion politique de son vestiaire. Il a donné les clés du camion à Mbappé et Neymar. Et c'est comme à la PlayStation. T'appuies sur croix et t'appuies en haut pour aller vite. Et puis tu le laisses se débrouiller. Puis voilà, c'est tout.
Vous me disiez que le leader, vous, Dominique Grimaud, il est à Doha. Il n'est pas sur le terrain.
Ça me paraît évident qu'il est à Doha. Sur le terrain, on n'en voit pas. Je crois que le PSG paie trois départs, qui ont été les départs d'Ibra, de Thiago Motta et Thiago Silva. Ces trois mecs-là, oui, étaient des leaders, pas seulement techniques. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui doit tirer son équipe vers le haut, qui doit être exemplaire. Exemplaire à tout niveau, dans l'attitude. Et c'est évidemment pas Neymar ou Mbappé qui peuvent être des leaders naturels de cette équipe du PSG. Donc j'en vois pas. Ce qui est certain, c'est que le sable est mouvant sous le banc de Tourelle et que les joueurs de l'équipe le savent. Et s'ils le savent pas, ils le sentent. Donc de toute façon, moi, mon sentiment, c'est que Tourelle n'a pas de perspective. Est très fragilisé et n'a pas d'avenir avec cette équipe du PSG. Et ça, Leonardo le sait. Et si Leonardo passe un coup de téléphone à Doha, c'est pas par hasard. C'est évidemment pour trouver un successeur à Tourelle. Et le successeur de Tourelle, il va venir assez vite, me semble-t-il. Alors, je ne vais pas vous donner de nom.
Pour l'instant, nous, on ne cherche
pas.
Mais si je l'avais, je te le donnerais.
Mais je ne peux pas, il n'a pas le droit, rien. Secret professionnel.
Parce que tu l'as sorti quand même à Tembe Larfa, quand même.
Oui, mais enfin, ça n'est pas tout à fait le même niveau.
Bon, nous, vous cherchez un successeur à Tourelle, nous, on cherche un successeur à Thiago Silva.
Oui, est-ce qu'il a été remplacé, finalement, en tout cas, en termes de capitanat? On sait que c'était le capitaine ces dernières années. Si on regarde, c'est les trois dernières saisons. Donc, il a été capitaine 44 fois. Si on regarde derrière, qui a porté le brassard? Marquinhos 18 fois, Kimpembe 8 fois et 2 fois pour Cavani. Finalement, pas beaucoup, en tout cas, de joueurs impliqués avec ce brassard derrière Thiago Silva.
Est-ce que pour vous, Marquinhos, par exemple, ça peut être cette personne? Vous disiez, il faut quelqu'un de... Qu'est-ce que vous disiez d'ailleurs? Je peux écouter.
Trop jeune.
Trop jeune?
Oui, trop jeune. Bon, très bon joueur, très bonne mentalité, très bon défenseur. Mais qui n'incarne pas, pour moi, le rôle du capitaine?
Un capitaine, par exemple, si c'est pas Neymar le capitaine?
Oui.
Est-ce que c'est un joueur? Est-ce qu'il y a un joueur au Paris Saint-Germain qui pourrait dire à Neymar, il faut que tu te replies davantage? Je pense que si Neymar joue au Real, si je pose, Marquinhos, je suis pas sûr. Si tu joues au Real et Ramos, il te rappelle. T'as beau être Cristiano, il a déjà parlé à Cristiano Ronaldo, il a déjà parlé à Zidane, il a déjà parlé. Si c'est Ramos, là, t'es sûr que t'as intérêt à revenir, parce que lui, il s'en fout, il va pas se cacher, il va te le dire. C'est aussi ça, c'est quelqu'un qui a une légitimité, qui a un charisme, qui dégage quelque chose. Marquinhos, franchement. C'est le genre idéal, c'est un super joueur, mais j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui il ait l'épaisseur suffisante pour aller parler à ces gars-là.
D'accord.
Ça, rien, Neymar, il est venu justement au PSG pour qu'on lui dise pas tu dois défendre. Il était par ça, on lui disait tu dois défendre. Et Messi, il a le droit de pas courir. Donc lui, il est venu au PSG pour qu'on le laisse peinard et qu'il fasse ce qu'il veut sur le terrain. Ça, c'est un peu logique.
Pourquoi vous disiez à temps partiel, Karim, sur ce rôle de patron quand,
parce que, qu'on le veuille ou pas, le leader charismatique de ce club, c'est Neymar. Le porte-drapeau international, c'est Neymar.
La tête de gondole.
La tête de gondole, c'est Neymar. Le leader technique, c'est Neymar. Celui qui fait la différence, c'est Neymar. Donc, voilà. Ce que je regrette chez lui, c'est qu'il est boss, mais à temps partiel, quand il a envie.
Oui.
Donc, quand il a envie, il emmène tout le monde derrière lui. Quand il n'a pas envie, physiquement d'ailleurs, quand il ne se replace pas, ben, ça pose un problème en défense, ça pose un problème au milieu de terrain. Quand il a envie, il emmène tout le monde avec lui. Quand il n'a pas envie, ben, tout le monde a moins envie. On a l'impression, c'est symbolique, hein, l'histoire de la musique et tout ça. S'il a envie, comme il avait envie à Lisbonne, où c'est lui qui amène la musique, il emmène tout le monde derrière lui, c'est ça.
Bien sûr.
Mais en fait, il n'a pas la maturité d'un Thiago Silva ou d'un Zlatan pour mettre tout le monde au carré quand il y a un moment donné, quand il y a moins de motivation. En fait, un vrai leader, ça se manifeste dans le vestiaire avant un match contre Dijon, en disant on gagne tous nos matchs. Moi, j'ai vu des joueurs comme Enze, comme des joueurs comme Sorin, qui mettaient l'électricité dans le truc quand il fallait que ça soit là. Et lui, en fait, il met l'électricité quand il en a envie. Donc les autres.
Quand ça brille.
Est-ce qu'il en avait envie justement en Ligue des Champions? On va regarder un chiffre concernant Neymar. Il reste sur 4 matchs sans marquer, voilà, muet Neymar. Ouais, c'est sa plus longue disette dans la compétition européenne depuis 2013.
Quoi? Pourquoi vous? Ouais, ça vous a, c'est quand même énorme, 4 matchs.
Oui, c'est.
Non, mais c'est beaucoup. L'inquiétude est sur la Ligue des Champions, parce qu'en championnat de France. Mais bon, oui. Je pense que.
Il va aller là quand même. Attention.
Mais sans marquer, il a emmené le PSG en finale de Ligue des Champions quand même. Parce qu'il n'a peut-être pas été décisif, il a été très
fort. Il ne faudrait pas que ça dure. Si vous me dites 10 matchs, par exemple. Bon, là, je vous dis, bon, peut-être qu'il y a envie.
Enfin, le problème du PSG aussi. Le problème du PSG, c'est qu'ils ont 2 joueurs qui ne défendent pas, qui ne participent pas au système. Donc, offensivement et défensivement. Normalement, il n'y a qu'un joueur. Il y en a 2 qui ne courent pas.
Tu peux même dire Maria.
La prédominance de Neymar vient aussi de l'absence d'autorité que Dominique a décrite aussi tout à l'heure.
De Thomas Tuchel.
Parce que si dans la chaîne de direction, on ne sait pas qui est. Qui donne vraiment l'impulsion, alors les joueurs font ce qu'ils veulent.
Bon, vous me parlez beaucoup de Neymar, Mbappé, c'est pas son rôle non plus, des fois, de prendre ce rôle de patron.
Trop jeune, et qui progresse déjà.
Bien compris, vous avez un problème avec l'âge, Dominique.
Mais qu'il oublie ses propres stats et qu'il travaille pour l'équipe Mbappé.
Je pense qu'il a vraiment toute une marge de progression encore.
C'est trop tôt.
Bon. Ouais. Ça serait pas lui rendre service de le disperser sur d'autres responsabilités.
Mbappé. S'il prolonge, ça veut dire qu'il va devenir.
Il a pris les épaules.
C'est ça que je comprends.
Mbappé qui sera sur le banc ce week-end contre Dijon?
Oui, a priori, beaucoup d'absents, d'incertains pour ce match demain soir face à Dijon. Alors, on vous a fait 2 colonnes pratiquement, tout à gauche. Eh bien, les blessés, Verratti, Gay, Paredes, Icardi, Kerrer. Et puis, les suspendus, ils sont 2, Di Maria, Kurzawa. Les incertains, il a dit, Thomas Tuchel, Navas, Florenzi et Ressé. Et puis donc, Kimpembe et Mbappé qui sont annoncés donc sur le banc. Ils ont trop joué avec les Bleus. C'est ce qu'a dit Thomas Tuchel. Et on a imaginé une compo probable justement du Paris Saint-Germain demain. Rico dans les buts, Dagba, Marquinhos, Diallo, Bakker en défense, Danilo juste devant. Draxler, Rafinha, il faudra trancher, Herrera. Et puis devant cette attaque assez inédite, Sarabia, Kin, Neymar.
C'est étonnant quand même toute cette hécatombe. Alors c'est Dijon en face, mais...
Ah, cela dit, je veux bien que l'entraîneur de Dijon serait content d'avoir cette équipe quand même le dimanche. Après, mais
on va pas avoir peur non plus.
Non, mais c'est quoi? C'est parce qu'ils ont, tous trop joué? C'est le Covid? C'est ce contexte-là qui fait qu'il y a beaucoup de blessés?
Ce qu'on a dit au début d'émission, c'est vrai que le Covid change beaucoup de choses, notamment aussi de la préparation athlétique, ce championnat qui s'est arrêté. Là, la longue période, on a repris. Maintenant, on joue des matchs. On a parlé la semaine dernière des matchs internationaux. La Ligue des Champions qui s'enchaîne toutes les semaines. C'est vrai que c'est très très compliqué. C'est très très compliqué pour les entraîneurs de faire une préparation athlétique cette année.
Tu as raison, Karim, mais vois Lille, il y a très peu de blessés à Lille.
C'est vrai.
Il y a des préparateurs.
Ils ont pas joué la Ligue des Champions en fin de saison aussi, le Final
8. Oui, c'est vrai.
C'était particulier pour le Paris Saint-Germain quand même.
Heureusement qu'il est là pour nous le rappeler. Il cache de Rasso. PSG Dijon, donc prochain match, ce sera samedi 21h. Thibaut, on dit quoi sur le PSG?
Moi, j'ai cherché le patron sur les réseaux sociaux. J'ai été voir.
Vous l'avez pas trouvé?
J'étais pas invité hier au barbecue chez Neymar, mais pourtant, je me suis dit, il y a peut-être un patron. Neymar qui invite des coéquipiers sur un barbecue. Je me suis dit, c'est peut-être Ander Herrera, le patron. Regardons si c'est lui.
J'ai peur.
Comme en fait.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est extra.
T'as des gars comme ça, ils ont un rôle important en étant le bon copain.
J'ai fouillé, je me suis demandé si
c'est
pas lui le patron. Après, je me suis dit, ça doit être le coach, le patron. Donc j'ai été voir sur les réseaux sociaux. Et en effet, ce dernier tweet nous montre la situation de Thomas. On voit qu'il reste accroché au PSG, mais qu'il est en délicatesse lui aussi, en difficulté. Thomas Tuchel non plus. Donc j'ai continué de fouiller, de me demander ça pourrait être Neymar. Les supporters, eux, ils nous disent Tuchel, dégage. Donc non, ce n'est pas Thomas Tuchel définitivement.
Non.
D'autres nous disent que finalement c'est peut-être Johan Gourcuff, le patron au PSG.
Ah, mais il a la retraite.
C'est le syndrome Johan Gourcuff en fait. Jour c'est l'ischio, un autre c'est les dents, un autre c'est le genou, l'oreille, bref, tout y passe. Les Parisiens sont blessés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je me suis dit finalement avec toutes les photos qui sont publiées par les Parisiens. C'est Marquinhos, il est de retour enfin, il va être disponible. Marquinhos présent, Marquinhos aller-retour, ralenti, même mis en avant par les comptes du Paris Saint-Germain. Mais en fait, non, le vrai taulier c'est lui sur les réseaux sociaux, c'est Neymar et ses millions d'abonnés qui s'est fait une petite partie de Among Us, là, un magnifique petit jeu. Regardez, il se régale. Neymar, joueur de e-sport, c'est le futur.
Il a l'air concentré.
Et puis voilà, donc Neymar, c'est plutôt le taulier vu des réseaux sociaux en tout cas.
Nous. Merci quand même, Thibaut Mézérian. Allez, vous restez bien avec nous. On va parler juste après la pub de l'OM. L'OM et son coach, André Villas-Boas, qui s'énerve aussi un petit peu lui aussi en conférence de presse, décidément. Vous l'entendrez juste après la pub. C'est la toute dernière ligne droite dans l'équipe d'Estelle. J'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous êtes costaud. Nabil, il l'est en tout cas apparemment, parce qu'on a encore pas mal de choses à voir. On va parler de l'OM dans un instant, mais apparemment on me dit qu'il faut tout de suite aller voir Bertrand Latour, notre envoyé spécial du côté du Roizen Park. Vous savez qu'il y a un match ce soir en Ligue 1 entre Rennes et Angers. Vous êtes très sombre, Bertrand Latour, mais ça tombe bien parce que c'est une sombre nouvelle que vous allez nous apprendre. Qu'est-ce qui se passe?
Merde.
Bon, on ne va pas non plus surdimensionner la porteur de l'information. Mais en tout cas, oui, il y a l'UEFA qui a lancé une procédure disciplinaire contre le Stade Rennais après le match contre Krasnodar. L'UEFA qui reproche à Rennes trois possibles violations des règlements, notamment le fait que les allées dans le stade du Roizen Park étaient parfois bouchées, ce qui empêchait une circulation fluide des spectateurs. Dans cette période de Covid, évidemment, c'est pas bon. Le non-respect des distanciations sociales par les 5000 personnes. C'est vrai qu'on a pu voir des images où les supporters étaient un petit peu entassés, et également il a reproché à la délégation officielle, en tout cas je reprends le communiqué, à la délégation officielle de Rennes de ne pas avoir respecté non plus le port du masque à tout moment. Donc voilà pour moi l'objet qui est l'objet de cette procédure disciplinaire de la part de l'UEFA. Pour le moment à Rennes on découvre un petit peu aussi l'information en même temps qu'elle était publiée. Donc voilà les suites de cette affaire, je n'en sais pas plus pour le moment, mais peut-être que l'après-match nous permettra de répondre à ces interrogations-là.
Merci beaucoup Bertrand Latour. Alors on ne sait pas trop à l'heure actuelle ce qu'il risque, mais c'est quand même étonnant. Un club à ce niveau, ce n'est pas des débutants, et ils ont eu des règlements à respecter. Étonnant, non, de la part du Stade Rennais.
Ouais, c'est difficile. Hein. C'est difficile. C'est la première fois qu'il y a toutes ces normes-là pour un match de Ligue des Champions. Je pense qu'il doit y avoir 100 trucs à régler.
Enfin, tous les autres clubs, ils sont parvenus apparemment.
Hein. Il y a des clubs où il n'y avait pas de public.
Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi, c'est vrai qu'on n'est pas en couvre-feu du côté du Stade Rennais.
Là, pas en couvre-feu. Au PSG, c'était en couvre-feu. Là-bas, c'était pas en couvre-feu. Après, voilà, il risque sans doute une amende financière qui ne va pas arranger les choses d'un club français. Quoi.
Bon, on va essayer de savoir un petit peu plus d'infos pour mieux vous parler de cette info-là, en tout cas du côté du Stade Rennais. On revient à notre dernier thème de la soirée. On voulait vous parler de Marseille. Les Marseillais qui ont raté leur retour en Ligue des Champions cette semaine avec une défaite à l'Olympiakos, une contre-performance qui est peut-être à mettre au crédit du coach André Villas-Boas.
Eh bien justement, regardons un peu ce qu'il a fait l'année dernière, André Villas-Boas, et ce début de saison pour l'entraîneur portugais. C'est un début de saison poussif pour l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. L'année dernière, il pouvait compter sur 58% de victoires donc tout au long de la saison. On est à 38% seulement donc depuis le début de la saison. Et puis un petit mot sur sa note moyenne dans l'équipe: 5,64 l'année dernière, 5,25 cette saison. On voit que il y a déjà deux défaites. Il y en avait 6 l'année dernière, donc c'est déjà un tiers du total de la saison passée.
Et pas tout à fait dans ses temps de passage. On va l'écouter avant de vous écouter, messieurs. Il assume encore et toujours, André Villas-Boas.
Je dois arrêter les demandes de système parce que j'en peux plus. Le système, c'est le système que je veux, quand je veux jouer avec ce système et combien de fois avec le système. C'est pas le système le problème, c'est les autres choses. On a baissé au niveau individuel les prestations qu'on doit remonter. Pour remonter, prestations individuelles, collectives, c'est ma responsabilité, c'est à le coach que vous devez et pouvez pointer sur cette chose-là.
Voilà, et lui, il ne perd pas son français. Les réactions recueillies par Nicolas Chébrier. Alors, vous avez entendu le coach marseillais, hein, qui veut prendre toute la responsabilité de ce revers sur ses épaules, qui n'a pas forcément eu les meilleurs choix sur ce match. Voici la question: peut-on commencer à douter d'André Villas-Boas? Fin de la baraka FC. Ok, j'ai compris. Il faut faire bouger l'équipe, nous dit Dominique Grimaud. Un peu, nous dit Thibaut Vézirian. Pas encore, nous dit Candice Roland. Villas-Boas doute, lui aussi. Ah, c'est pas mal comme réponse. Non, Vicage de Rasseau. J'aime bien Vicage. C'est... il y a pas de dada. C'est oui, c'est non. Il écrit pas du tout.
Dire qu'il est cash, Vicage.
Voilà, c'était ouais,
c'est la première fois. Qu'on l'a fait,
merci.
Donne-moi du cash, non.
Alors, il faut changer les choses, nous, Dominique Grimaud. Qu'est-ce qu'on change?
Il faut changer les choses, mais il faut surtout changer les joueurs.
Ah oui, c'est compliqué. Non, mais
lesquels tu veux mettre lesquels?
Il y a évidemment des joueurs qui sont insuffisants. On pense en priorité à Payet, car 5-6 kilos en trop. On pense à Benedetto qui traîne son âme en peine depuis des matchs et des matchs. On pense à Sanson qui n'est pas dans le coup en ce moment, voire à Rongier. Donc avant de et puis il faut qu'il relance d'autres joueurs.
Oui, parce que changer les joueurs, il ne pourra pas. Non, mais par contre, il peut relancer l'autre.
Bah, je ne sais pas. Est-ce que Cuisance me paraît être évident.
La recrue.
Voilà. Il va récupérer Camara au milieu de terrain. À la limite, moi, je me demande si son meilleur milieu de terrain aujourd'hui, ça ne serait pas Camara, Pape Gueye, qui jouait en Ligue 2 la saison dernière, et qui, sur les derniers matchs, a montré que finalement, c'était le meilleur Marseillais, hormis Mandanda. C'est quand même assez anormal qu'un jeune joueur qui vient d'arriver à l'OM se pointe comme le meilleur joueur. Moi, ça me paraît fou. Donc, milieu de terrain, Camara, Gueye, Cuisance. Devant, tu ne peux pas bouger Thauvin, quand bien même. Bon, la spéciale Thauvin, tout le monde la connaît par cœur. Robben en a marqué des milliers, des buts comme Thauvin, on a marqué des dizaines. Mmh. Et puis tu refais confiance peut-être à Mitroglou, puisque Benedetto n'en met pas une. Donc je veux dire, Mitroglou, à 330 000 euros mensuels, on le dit, on le répète, on ne le laisse pas choir. Et puis, pour le reste, peut-être Valère Germain, Radonjic, enfin, il y a encore un peu de monde.
Mais prenez les rênes de cette équipe, bon sang, Dominique, ça a l'air si simple quand on vous écoute. Non, c'est la fin du Baraka, de la Baraka FC. Bah, pour vous, c'est
pour
de la
moi,
chance jusqu'à
de Marseille,
présent
c'est une équipe qui ne produit pas de jeu. Alors, ce qu'il a réussi l'année dernière, c'était assez remarquable, même si on n'a pas été jusqu'au bout de la saison. Mais ça a souvent tenu qu'à un fil, il y a eu plusieurs hold-up. Alors, c'est pas lié qu'à la chance, évidemment, à la réussite. Mais quand on te dit que ton meilleur joueur, c'est Mandanda, pour un deuxième du championnat de France, ça interpelle. Ça veut dire qu'en gros, c'est quoi ? C'est un bloc bas, c'est des gars qui se battent les uns pour les autres. Il a bien travaillé, il a surlancé des gars comme à Mavi, par exemple. Mais à un moment, c'est pas un magicien. Parce que moi, j'entends que de remettre de la concurrence, ok. Mm. Mais franchement, l'effectif de l'OM, il n'est pas du niveau de celui de Rennes, il n'est pas au niveau de celui de Lyon, il n'est pas au niveau de celui de Lille. Quand tu as très peu de joueurs de grand talent, et en plus, ils ne font pas attention, comme Payet, par exemple. Parce que là, c'est un scandale. Parce que quand tu vois ce qu'a fait Valbuena de l'autre côté, 36 ans, et quand tu vois dans quel état de forme est Payet, alors je veux bien qu'il y ait un staff pour l'aider, pour lui dire les choses, mais enfin, si c'est le leader de cette équipe, putain, quel exemple pour les autres.
Il va très bien, Dimitri Payet. Écoutez son coach, André Villas-Boas, il va bien, Dimitri.
Il sait précisément ce qu'on veut de lui, et on est ici pour l'aider. Au contraire de tout ce que veut communication sociale plus supporters qui sont dans un moment de tuer tout le monde est un désastre, tout le monde, le système est une merde, c'est tous un désastre. Moi, je suis ici pour soutenir mes joueurs et un club Payet, un club Benedetto, un club tous les autres qui sont sur une prestation individuelle mauvaise.
Juste si je peux, parce que je rebondis sur ça, est-ce que du coup, parce que c'est vrai que beaucoup d'observateurs jugent qu'il a un surpoids, est-ce que vous-même vous considérez effectivement que quand vous dites sa condition physique, est-ce que c'est
oui.
ça ?
Il est au même poids de l'année dernière.
Voilà, il est au même poids que l'année dernière.
Comme ça, il pèse pas le même volume.
Il est au même poids que l'année dernière.
Mais pas le même volume.
Il est au même poids que l'année dernière.
Quoi ?
Il est au même poids que l'année dernière, mais il pèse clairement moins sur le jeu de l'OM cette saison que l'année dernière, si je puis me rappeler.
Il avait préparé même à son poids de forme, il est en surpoids, j'ai l'impression.
Je suis désolé, j'ai pas le jeu de mots.
Mais le problème, c'est pas que Payet, c'est aussi. Vous avez parlé de Benedetto, mais c'est peut-être le logiciel de jeu. C'est-à-dire qu'il a habitué cette équipe à jouer d'une telle manière qu'aujourd'hui, dès qu'il faut qu'elle fasse du jeu, elle est en difficulté. Et puis les autres, ils ne vont pas se faire avoir deux fois de suite. C'est-à-dire que la saison dernière, ils savent tous comment joue l'OM aujourd'hui. Il suffit qu'il y ait des petites baisses de forme individuelles, des joueurs qui se projettent moins, des joueurs qui apportent moins, des joueurs qui sont moins en réussite. Et tout de suite, ça devient, comme l'a dit hier Dominique, parce que je l'ai regardé hier, une équipe très moyenne. Concrètement, aujourd'hui, pour moi, elle n'est pas invitée en Ligue des Champions. Face
si,
à.
Elle y est.
Non, mais sur le niveau. C'est-à-dire que c'est, pour moi, c'est une équipe d'Europa League. Voilà, je sais que ça ne peut pas forcément faire plaisir, mais je pense que voilà, on est ici pour dire des choses. Lille, ils sont en Europa League. Pour moi, en termes de football, ils pourraient être en Ligue des Champions, il n'y a aucun souci. Et ça, c'est son job aussi, lui, de corriger des choses, de remettre de la concurrence et peut-être changer des choses tactiquement.
Bon, Vika, je vous doutais ou pas ?
Moi, je réponds à la question, oui, peut-on douter d'André Villas-Boas ? Moi, je ne doute pas de lui. Moi, quand je l'entends parler, quand je le vois coacher son équipe, j'aurais aimé avoir cet entraîneur comme entraîneur. Je veux dire, il est formidable.
Parce qu'il prend votre défense, forcément.
Oui, il défend ses joueurs, il ne panique pas, il est calme, il est cool, il répond correctement. On voit bien que lui, il est serein, il va pas se passer grand chose. Et il a quand même pris cette équipe qui joue très mal, qui n'a pas d'effectif, et il l'a emmené en Ligue des Champions.
Elle joue toujours très mal.
Non, mais je veux dire, il a quand même c'est fait quelque chose d'extraordinaire. Oui. Donc après, c'est sûr, il est limité dans son effectif. Et en ce moment, je trouve qu'il fait des mauvais choix. Il fait des mauvais choix de joueurs et de schémas à part certains moments. Il a joué aussi sans attaquant parfois. Ouais. Moi, je pense que Rongier, il devrait jouer devant la défense.
Gueye.
Ouais, et Camara, ça doublonne peut-être aussi, mais il est très bon. Hein.
Cuisance.
En tout cas, lui, on l'a dans notre championnat, c'est quand même pas mal. Il ne faut pas qu'il parte. Quoi. C'est quand
même la différence. Attendez,
Karim, le mot de la fin, on l'a pas entendu encore.
Karim, quelle est la différence entre le jeu d'Elibo Pinzero et ce que nous produit André Villas-Boas?
Mais ça veut dire quoi, produire du jeu?
Il n'y a rien, c'est
l'OM. L'équipe de France, championne du monde, c'est qu'elle a produit du jeu.
Allez, Karim, le mot de la fin.
Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que j'ai l'impression que Villas-Boas doute vraiment de lui-même maintenant. dans ses prises de position, il assume tout. D'ailleurs, s'il tue ses joueurs, après, il est perdu. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il est face à une équation mathématique dont il ne comprend plus. L'an dernier, il avait réussi à trouver la solution, un peu par magie, d'emmener cette équipe-là par magie avec le talent de ces équipes-là. Il a douté aussi de savoir s'il continuait. Vu la période du Covid, il est resté à l'OM. Mais j'ai du mal à voir cette équipe parce que j'ai l'impression qu'elle joue par compartiment. La défense joue, souvent sauvée par Mandanda. Au milieu de terrain, on a l'impression qu'ils ont perdu la foi, ils ne se relancent pas. Ce pauvre Benedetto, mais même s'il est, il ne sait pas prendre de la profondeur, il ne sait pas garder un ballon, il n'est aidé par personne, il n'y a pas un centre qui est dans les pieds, donc il est perdu. Oui, relançons un Germain, relançons un Mitroglou et mettons un Thauvin un peu plus dans l'axe et un Cuisance derrière eux, comme ils ont fait contre Bordeaux.
Merci Karim. Il faut absolument que Thibaut me dise ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On se fait disputer dans l'oreille.
Non, les fans, les supporters, eux, ils restent derrière André Villas-Boas. Oui. Même si pour la première fois, on commence à voir quelques tweets pour dire qu'en effet, l'OM est prévisible. Il n'y a aucune combinaison, aucun jeu en triangle, aucun jeu tout simplement. On a été nuls et on reste nuls. D'autres messages pour dire que, en effet, ça les a fait sourire que la déclaration de Payet fasse le même poids que la saison dernière. Il y a Lucien qui dit donc plus de 250 millions de personnes voient mal. Ok, il a raison. Il y a eu ce genre de message, mais pour dire que finalement, la doublure de Benedetto, on n'en sait rien, qui sait, mais on va voir. On va aussi jouer à deux devant Eddy Villas-Boas. Et ça a rassuré les supporters marseillais. Comme l'a dit Karim, va peut-être passer à deux attaquants. Et ça, ils ont envie de voir ça, voir du changement, voir des modifications pour les rassurer et au moins tenter autre chose.
Allez, le changement, c'est maintenant. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup, Thibaut Mézières. Merci à tous et à toutes. Number one, mon petit pigeon de l'amour. Passez une très belle soirée. Tout de suite, c'est l'équipe du soir avec Olivier Ménard et toute sa bande. Ciao. We'll be right back.